pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia.
Sainte Marie, Reine des anges,
priez pour nous. Merci beaucoup. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs de cette journée pour leur invitation. Je connaissais l'association de Lourdes Cancer Espérance, mais je n'avais jamais eu l'occasion de rencontrer un groupe ni de participer à un pèlerinage. Maintenant, je suis très heureux d'être là avec vous aujourd'hui pour vous parler des anges. Alors les anges, on en parlait tout à l'heure avec ceux avec qui j'étais à table, là. C'est un sujet dont on ne nous parle pas beaucoup, dont on ne nous parle pas souvent. Et c'est même un sujet qui peut attirer dans notre esprit un certain nombre d'interrogations, voire même de méfiance. On ne nous en a pas beaucoup parlé, je ne sais pas, on n'est pas tout à fait de la même génération, mais je ne me sens pas si loin de vous quand même, hein. Pour la plupart d'entre vous, je pense que vous avez la même expérience que moi, c'est que, alors oui, mes parents, nos parents, quand on était petits, nous parlaient des anges, notamment ils nous parlaient des anges gardiens, vous savez, moi, mon père, le soir, avant d'éteindre la lumière, il me disait, voilà, si t'as peur pendant la nuit, t'as qu'à prier ton ange gardien. Alors, je soupçonne que c'était une technique pour m'empêcher d'aller le réveiller pendant la nuit, mais n'empêche, voilà, on nous en parlait de cette manière-là, on nous en parlait un petit peu au catéchisme, quand on parlait de l'Annonciation, de la nativité de Marie, de la nativité de Jésus, pardon. Donc on l'évoquait un petit peu, mais je pense que vous avez à peu près la même expérience que moi, c'est pas un sujet dont on entendait souvent parler dans les prédications, par exemple, à la messe le dimanche. J'ai jamais eu un curé un jour qui a fait une homélie sur les anges. Éventuellement, il y avait deux moments dans l'année où j'en entendais parler. C'était le 29 septembre, parce que c'est la fête des saints archanges, et puis le 2 octobre, parce que c'est la fête des saints anges gardiens. Donc on avait deux occasions d'en entendre parler. C'était le 29 septembre et le 2 octobre, c'est-à-dire avec trois jours d'écart pendant l'année. Donc pendant 12 mois, on n'en entendait plus parler, quoi. Et puis en grandissant, au catéchisme, on nous en parlait très, très peu, à l'aumônerie ou dans les mouvements de jeunesse auxquels j'ai pu appartenir, c'était pas un sujet qui venait souvent. Vous savez, quand on est jeune, les prêtres, ils vont se dire bah, de quoi ils ont besoin les jeunes. Ils ont besoin qu'on leur parle de l'Eucharistie, ils ont besoin qu'on leur parle de la confession, ils ont besoin qu'on leur parle de l'Église, de la charité, toutes ces choses-là qui sont très, très importantes. Mais le sujet des anges, on le met un petit peu de côté. Voilà. Et puis même en grandissant, plus tard, quand j'étais étudiant, puis séminariste, même au séminaire, et pourtant j'étais formé dans une bonne maison, hein, pas aussi bonne que la Cotellerie, mais quand même, le sujet des anges, on nous en parlait pas beaucoup. Voilà, sans mauvais jeu de mots, c'était un sujet qu'on se contentait de survoler un petit peu, quoi. Et voilà. Donc même comme prêtre, c'était pas un sujet que j'abordais beaucoup. Moi, je suis prêtre depuis 15 ans. J'étais dans différentes paroisses, en France ou à l'étranger. Et il y a quelques années, quand j'étais en Mayenne, j'étais prêtre pendant 2 ans en Mayenne, du côté de Sainte-Suzanne, et à la fin de ma deuxième année, je suis appelé au bureau du modérateur général, Don Paul, qui me convoque. C'est jamais très bon signe quand on se fait convoquer par le patron, hein. Donc il m'invite à le rejoindre dans son bureau, il me dit « Voilà, Pierre, on a pensé à toi pour aller au Mont-Saint-Michel. » Alors moi, je suis comme tous les hommes, hein, je réfléchis pas beaucoup, j'ai dit oui tout de suite. Et je dis oui, et je me souviens très bien, donc j'étais content de cette perspective, j'étais triste de quitter Sainte-Suzanne et la Mayenne, mais je me dis après tout, c'est nouveau pour moi, un sanctuaire, j'ai jamais été dans un sanctuaire, ça va me faire découvrir quelque chose d'autre. Mais je me souviens qu'en fermant la porte du bureau de mon supérieur, je me suis dit, mais pourquoi t'as dit oui? T'y connais rien aux anges. Parce que le Mont Saint-Michel, le sujet c'est un peu ça quand même, hein, Saint-Michel-Archange, bon... Et on était au mois de mai, si je me souviens bien, quelque chose comme ça, mois d'avril. Et je me suis dit, bon ben, puisque j'arrive au Mont-Saint-Michel en septembre prochain, il me reste quelques mois pour approfondir la question. Donc je me suis plongé dans des livres, dans des articles, dans des recherches sur les anges. Et alors là, je me suis senti un petit peu comme a dû se sentir, vous savez, Christophe Colomb, là, quand il a découvert un nouveau continent, là. savez, quand il est arrivé, il raconte sa surprise devant ce qu'il voyait, les paysages qu'il découvrait, les arbres, les fruits qu'il ne connaissait pas. Ben, moi, c'était un peu pareil, à mon petit niveau. Sauf que le nouveau continent que je découvrais, c'était pas les Amériques, c'était le continent du monde angélique, du monde invisible. Et donc voilà, ça m'a beaucoup touché, ça m'a beaucoup nourri spirituellement pendant toutes ces semaines où je me suis vraiment consacré à ça, ces mois. Et arrivé à quelques jours de mon déménagement vers le Mont-Saint-Michel, je me souviens, j'avais pris quelques jours de vacances, parce que quelquefois les prêtres, on prend des vacances. J'arrive en vacances en famille, et puis il y avait là quelques cousins, cousines, frères, sœurs, parents, oncles et tantes. Et puis évidemment, ils me posent des questions sur ma nouvelle mutation au Mont-Saint-Michel, etc. Donc je réponds, et puis à un moment, dans la conversation, je leur partage ma joie d'avoir découvert ce monde des anges. Alors il y en a quelques-uns qui s'intéressent, qui me posent des questions. Ah bon, mais c'est quoi? Et puis à côté de moi, là, juste à ma droite, il y avait un oncle très cher, que j'aime beaucoup, qui est un homme merveilleux, qui est croyant, pratiquant, qui a éduqué ses enfants dans la foi, qui est très engagé dans l'Église, comme vous l'êtes certainement beaucoup d'entre vous. Et puis je le voyais au fur et à mesure de la conversation, il commençait à se trémousser, à s'agiter un petit peu comme ça, là. Et puis il me dit, les anges, est-ce que c'est bien sérieux tout ça? Peut-être que c'est la question que certains d'entre vous se sont posés quand ils ont vu que le thème de la rencontre d'aujourd'hui, c'était les anges. Peut-être qu'il y en a qui se sont dit, oh, les anges, oui, bon, bah, pourquoi pas, mais est-ce qu'il y a vraiment grand-chose à dire là-dessus? Alors mon oncle, je comprends, parce que bah, comme moi, il n'avait pas beaucoup reçu à ce niveau-là, il n'avait pas beaucoup réfléchi à cette question-là, donc je comprends un petit peu, non pas la méfiance, mais est-ce que ce n'est pas un truc pour les enfants, cette histoire d'anges, hein? Parce que aussi, c'est des choses qu'on nous a dites. Moi, je me souviens, un curé que j'aime beaucoup par ailleurs, mais dès qu'il était question des anges, il n'était pas très très à l'aise. Hein. Même le démon, voyez, on n'osait pas trop en parler, quoi. Parce que c'est invisible, parce que c'est difficile à expliquer, parce que ça échappe à nos sens. Voilà, c'est beaucoup plus facile de prier à la Vierge Marie. Marie, elle est une femme comme nous, elle a partagé notre nature humaine. Un ange, on sent bien qu'il y a autre chose qui se passe. Donc, je voudrais d'abord répondre à mon oncle, comme ça. Ceux qui se poseraient la question comme lui, est-ce que c'est bien sérieux, ben vous aurez des réponses. Et puis pour les autres, ça vous donnera encore plus de raisons de croire aux anges et de les prier. Alors, est-ce qu'il est sérieux de croire aux anges? Est-ce que c'est vraiment utile de croire aux anges? Oui, vous en doutez, sinon on s'arrêterait tout de suite. Oui, pour trois raisons, au moins. Je vais vous en donner trois. Il y en a d'autres, hein, mais c'est les trois qui me semblent les plus importantes. Pourquoi est-il utile de croire aux anges? D'abord, parce que ça fait partie de ce que nous dit l'Écriture. Vous ne pouvez pas ouvrir votre Bible et la lire pendant plus de 10-15 pages sans tomber à un moment sur l'intervention ou l'évocation des anges. Il y a un grand théologien dominicain qui est mort il y a quelques années maintenant, il était de la province de France, il était dominicain à Lyon. Alors il avait un nom prédestiné à s'intéresser à cette question puisqu'il s'appelait Ange Rodriguez. Il était exorciste, il avait beaucoup réfléchi sur la question des anges, et il disait, si vous arrachez de votre Bible, ne le faites pas, hein, si vous arrachez de votre Bible toutes les pages où il y a le mot « ange », bah vous allez retrouver à la fin avec un livret de quelques dizaines, quelques centaines de pages. Tellement les anges agissent et interviennent ou sont évoqués dans la Bible à temps et à contre-temps. Le mot « ange » apparaît plus souvent que le mot « Jésus ». Alors, vous allez me dire, bah oui, c'est normal, parce que Jésus, c'est que le Nouveau Testament, donc... Alors que la Bible, c'est tout, l'Ancien et le Nouveau. Donc oui, mais quand même, c'est quand même un signe. Le mot Trinité, combien de fois il apparaît dans la Bible? Zéro. Zéro. Le mot Trinité, zéro fois. On entend, alors Jésus nous révèle la Trinité, il nous dit « Je suis dans le Père et le Père est en moi et avec l'Esprit nous sommes un ». Mais le mot Trinité a été inventé par l'Église pour rendre compte avec notre intelligence du mystère d'un Dieu unique en trois personnes. Donc vous imaginez quelque chose qui est évident pour nous, la Trinité. Sinon, faut arrêter, hein. on arrête tout si on n'y croit pas, hein. C'est pas. Le mot Trinité, la Trinité, Dieu un en trois personnes, c'est une évidence pour nous, et pourtant ce n'est pas dans la Bible. Et on aurait du mal à croire dans les anges alors que c'est partout dans la Bible. Mais quand je dis partout, ça commence dès le premier livre de la Bible, le livre de la Genèse, souvenez, après la faute originelle, eh bien, ce sont des anges qui expulsent Adam et Ève du paradis terrestre et qui gardent les portes du paradis. Vous vous souvenez de ça, dans le troisième chapitre du livre de la Genèse. On les voit intervenir dans la vie d'Abraham, on les voit intervenir dans la vie des patriarches, on les voit intervenir dans la vie de Moïse. Hein, Moïse, le plus souvent, quand il est en contact avec Dieu, en fait, il est en contact avec l'ange du Seigneur. Hein, et Dieu, vous savez, à un moment, c'est assez amusant, sur le mont Sinaï, il y a Dieu qui dit, Moïse qui dit, moi j'aimerais bien te voir. Moïse qui dit à Dieu, j'aimerais bien te voir. Et Dieu lui dit, ok, allez, on va faire une exception pour toi. Je vais passer devant toi, mais en passant, je vais mettre ma main devant tes yeux. Blottis-toi contre ce rocher, et quand je te dirai, tu pourras te retourner, et alors tu verras mon dos. Dieu, il n'a pas de dos. Hein. Vous irez lire ça dans le livre de l'Exode. Et en fait, ce que perçoit Moïse, ça ne peut pas être Dieu. Parce que Dieu, on ne peut pas le voir sans mourir. Dieu nous révèle son visage à travers l'incarnation de Jésus, mais Dieu, en lui-même, l'essence de Dieu, on ne peut pas la voir. Donc ce que Moïse a vu, et s'il a vu quelque chose, d'ailleurs on ne sait pas très bien ce qu'il a vu, c'est un ange. Voilà. Vous souvenez, les trois visiteurs du chêne de Mambré, ce n'est pas la Trinité. Vous souvenez, dans la vie d'Abraham, ce sont trois anges qui se manifestent. Quand on était petit au quartier, on disait c'est la préfiguration de la Trinité. Oui, mais en réalité, ce sont trois anges. Hein, Moïse, il n'a pas servi un agneau à Dieu. Hein. Voilà. J'ai dit Moïse, Abraham, pardon. Bon, bref. Donc, ils sont partout dans l'Ancien Testament. Alors, souvent, il y a des gens qui disent, mais ça, c'est l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, il ne faut pas tout prendre à la première lettre. Alors, oui, il y a des choses dans l'Ancien Testament qu'il ne faut pas prendre à la première lettre. On est d'accord, hein. Quand le livre de la Genèse nous dit que toute la création a été faite en 7 jours, c'est pas en 7 jours 24 heures. Ça veut dire, dans la symbolique biblique, ça veut dire que ça a pris du temps. Ça veut dire que ça s'est fait dans le temps, que Dieu n'a pas tout créé d'un seul coup, mais que Dieu a créé toutes les choses, que cette création s'est déployée dans le temps. C'est ça que ça veut dire. Donc, effectivement, il n'y a pas quelqu'un... De toute façon, ça ne marche pas, hein, puisque le premier jour... comment on fait pour savoir que le premier jour dure 24 heures? Le premier jour, ce n'est pas un jour de 24 heures. Il n'y a pas quelqu'un avec un chronomètre pour vous dire « Ah, bah tiens, ça a duré un jour !» Non. Donc, il y a des choses dans la Bible qu'il faut prendre de manière symbolique, mais il y en a d'autres, et ça, en général, on le sait. Il y a des indices dans le texte qui nous permettent de le savoir. Par contre, quand il est question des anges dans l'Ancien Testament, il n'y a aucun élément qui nous permet de dire « Non, mais ça, c'est une manière de parler. » Jacob, Genèse, je suis très mauvais en citation biblique, je crois me souvenir que c'est Genèse 12, Jacob qui se bat contre l'ange dans la grotte, vous vous souvenez de ça? Il ne se bat pas contre une manière de parler. Il se bat contre un être puissant dont il n'arrive pas très bien à distinguer l'essence, je ne sais pas trop ce que c'est, mais il ne s'est pas battu contre une manière de parler. Il s'est bien battu contre un être vivant avec qui il était en dialogue. Voilà. Dans le texte, on ne peut pas dire que ce soit des manières de parler. Et puis souvent, les gens ont tendance à penser mais c'est surtout dans l'Ancien Testament qu'on entend parler des anges. Alors là, il n'y a rien de plus faux, puisqu'en fait, vous savez, l'histoire de l'Ancien Testament, elle nous est racontée dans la Bible, ça représente une période de 2000 ans à peu près. On estime que Abraham, c'est 1900, 2000 avant Jésus-Christ, et Moïse, c'est 1200 avant Jésus-Christ, David, 1000 avant Jésus-Christ. Tout ça, c'est 2000 ans d'histoire qui nous sont racontés tout au long de l'Ancien Testament. Dans ces 2000 ans d'histoire, les anges interviennent, mais on ne peut pas dire que ce soit qu'il y ait des interventions toutes les 4 matins. Sur 2000 ans d'histoire, quand vous lisez le livre de l'Ancien Testament, ce n'est pas des interventions, il n'y en a pas tous les 4 matins. Par contre, quand vous lisez le Nouveau Testament, et notamment quand vous lisez l'Évangile de Luc, et quand vous lisez singulièrement les premiers chapitres de l'Évangile de Luc, alors là, il y a une augmentation de l'activité des anges, il y a des anges partout. Vous voulez qu'on regarde ensemble, dans les premiers chapitres de l'Évangile de Luc, quelle est la première apparition d'un ange à un être humain dans l'Évangile de Luc ? Avant Marie. J'ai cru l'entendre. Quelqu'un l'a dit. Zacharie, vous vous souvenez? Zacharie, dans le temple de Jérusalem, il a une apparition de Gabriel. Bon, il y a Zacharie, ensuite Marie. Après, Joseph, premier songe à Joseph, vous vous souvenez? N'aie pas peur d'accueillir Marie et l'enfant qu'elle porte, car l'enfant qu'elle porte a été conçu de l'Esprit-Saint. Après, Noël, avec les anges, l'annonce aux bergers. Ah, il n'y en a pas qu'un seul en plus, il y en a un qui parle, mais il y en a plein qui chantent autour. qui proclame la gloire de Dieu. Deuxième songe à Joseph, prend l'enfant et sa mère et fuit en Égypte car Hérode veut tuer l'enfant. Et puis troisième songe à Joseph, vous pouvez revenir puisque Hérode est mort. Donc c'est à peu près, on estime, les historiens estiment que ça, ces événements-là se passent sur un laps de temps de 6 à 8 ans, si on va jusqu'au retour en Égypte. On pense que Jésus est revenu d'Égypte, il avait 6 ans, 7 ans, 8 ans, on ne sait pas exactement. Mais dans ces eaux-là. Bon ben, sur 6 années, 8 années, il y a 6 interventions d'anges. C'est-à-dire qu'en proportion, les anges interviennent plus dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien Testament. En tout cas, de ce que nous dit la Bible. Hein. Et puis si on continue, dans la vie de Jésus, ça continue. Souvenez-vous, les tentations au désert. Souvent, quand on commente les tentations au désert, on s'intéresse à un ange déchu, le démon, hein, qui tente Jésus à 3 reprises, etc. Et on oublie que dans l'évangile de Marc, on nous donne ce petit détail qu'une fois que le démon quitte la présence de Jésus, des anges étaient là et le servaient. Alors moi, quand j'étais petit, j'imaginais les anges qui arrivaient avec des plateaux repas pour servir un petit goûter à Jésus. Alors c'était pas ça, puisqu'on sait que Jésus, il a passé 40 jours sans manger, sans boire. Donc, mais voilà, il y a des anges qui sont venus. Donc on nous dit que dans la vie de Jésus, il y a eu des interventions des anges. Non seulement il y a des interventions des anges, mais en plus Jésus en parle. Jésus parle des anges. Je l'évoquerai tout à l'heure peut-être si on a le temps, mais Jésus, à un moment, par exemple, il évoque les anges des enfants. Vous vous souvenez, il y a les enfants qui sont là, et Jésus dit « Ne les scandalisez pas, car leur ange dans le ciel contemple sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. » Et Jésus, globalement, quand il dit un truc, on l'écoute, non ? Hein ? C'est-à-dire que si Jésus, à propos de ses enfants, parle des anges, ben ça veut bien dire que lui-même, il y croit. Et non seulement Jésus en parle, il en parle aussi à Pilate. Vous vous souvenez, si mon Père l'avait voulu, une légion d'anges serait venue pour me secourir, pour me défendre. Non seulement il en parle, non seulement les anges interviennent auprès de Jésus, mais il y a un moment qui est très 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 beau, qui est très touchant dans la vie de Jésus, c'est le moment du Jeudi Saint. Vous vous souvenez, Jésus vient de partager son dernier repas avec ses disciples. Il emmène avec lui les trois chouchous, là, Pierre, Jacques et Jean. Il les emmène avec lui au jardin des Oliviers. Il leur dit « Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation ». Résultat, qu'est-ce qu'ils font ? Ils dorment, voilà, c'est l'heure de la sieste, ils viennent de bien manger, hein, comme vous, et ils s'endorment, et Jésus, pendant ce temps-là, prie. Donc, vous vous souvenez, il prie, il demande, Père, que ce calice s'éloigne de moi, etc., etc. Il va voir ses disciples, il les réveille, il retourne prier, se rendorme, il les réveille, enfin bref, c'est pathétique ce moment-là. On sent Jésus qui est totalement, qui fait l'expérience que tous ont fait à un moment ou à un autre de notre vie, peut-être que certains traversent cela en ce moment, il fait l'expérience de l'abandon de Dieu et de l'abandon des hommes. Il se sent abandonné du Père et abandonné des hommes. Et là, on nous dit, Luc, chapitre 23, verset 43 ou 44, et là, un ange était là pour le réconforter. Il y a un ange qui intervient auprès de Jésus et qui réconforte Jésus dans son humanité, alors qu'il fait l'expérience de l'abandon du Père et de l'abandon des hommes, de la solitude absolue du Fils de l'homme qui va donner sa vie. C'est très beau, hein ? Et puis on pourrait rajouter, dans le Nouveau Testament, eh bien, l'ange de la résurrection, ou les anges de la résurrection, ça dépend des évangélistes, ils ne sont pas tous d'accord, les anges de la Pentecôte, de l'Ascension, pardon, les anges de l'Ascension, il y a d'autres interventions d'anges aussi dans le livre des Actes des Apôtres, etc. Donc bref, première raison pour laquelle il est utile et sérieux de croire aux anges, c'est que ça fait partie des Écritures. Et nous, les chrétiens, et les catholiques, on accueille l'Écriture comme une parole de vérité, qu'on interprète à la lumière de ce que l'Église nous dit, hein. Mais on ne peut pas dire « Non, mais ça m'intéresse pas, je ne prends pas. » Ouais. Non, mais moi, la multiplication des pains de Jésus, moi, non, mais ça me plaît pas trop, je ne prends pas. Non, ou Jésus qui ressuscite. Vous savez, il y a des gens qui disent ça. « Non, mais Jésus, je ne crois pas qu'il soit vraiment ressuscité. Ah, » bah, c'est dommage, parce que saint Paul, il dit « si Jésus n'est pas ressuscité, alors notre foi est vaine. Ouais. » Donc, première raison, les Écritures. Deuxième raison, ça va un peu avec, c'est que pour nous, les catholiques, on partage ça avec les orthodoxes, c'est quelque chose de très très important. Comment on fait pour nourrir notre foi et notre existence chrétienne ? On la nourrit à deux sources. Plutôt, on l'alimente à deux sources. La parole de Dieu, les Écritures, et ce qu'on appelle la tradition. Comment l'Église, depuis 2000 ans, a accueilli cette parole de Dieu, l'a interprétée et l'a transmise. Quand le pape écrit une encyclique, c'est pas la parole de Dieu, mais ça devient le magistère, et donc ça appartient à la tradition. Et il ne peut pas y avoir de contradiction entre les deux. Quand le concile se réunit pour décider d'un certain nombre de choses, ça appartient à la tradition. C'est la façon dont l'Église accueille la parole de Dieu et la transmet à son tour. Et nous accueillons ces deux sources, la tradition et la parole de Dieu. Nous les accueillons avec bienveillance et avec obéissance filiale, parce que nous croyons qu'à travers ces deux sources, nous pouvons alimenter notre foi. Alors la tradition de l'Église, depuis 2000 ans, affirme et confirme l'existence des anges. Ça fait 2000 ans que l'Église professe sa foi dans l'existence des anges. Il n'y a pas un moment où il y a un pape qui a dit « Non mais les anges, vous savez, c'est un petit truc qu'on vous a raconté, pour vous, enfin, ça faisait joli. Non, en vrai, c'est pas tout à fait vrai. » Non, non, non. Les papes, sans s'arrêter, les évêques, les prêtres, les fidèles, depuis 2000 ans, croient en l'existence des anges et confirment cette foi en l'existence des anges. C'est pas un petit argument, hein, parce que nous, on ne peut pas comme ça se séparer de ce qui nous a précédé. Si l'Église, depuis 2000 ans, et les chrétiens, depuis 2000 ans, portent cette foi dans l'existence des anges, ben nous, on, je sais pas qu'on est obligé, mais c'est naturel d'accueillir ce que nous avons reçu et d'essayer de le transmettre à notre tour. Voilà. Deuxième raison, donc, la tradition. Je pourrais rajouter dans la tradition les théologiens. Alors, tous les grands théologiens se sont intéressés aux anges, de saint Augustin, Origène, Saint Bernard de Clairvaux, Albert le Grand, Thomas d'Aquin, toutes ces pointures, plus proches de nous, Jean Danielou, cardinal de Lubac, Yves Congar, tous ces grands noms de la théologie catholique depuis 2000 ans, ont tous, à un moment ou à un autre, évoqué l'existence des anges et confirmé ce que l'Église dit sur l'existence des anges. Ensuite, c'est un troisième argument, il est de moindre importance, mais il faut quand même l'entendre, c'est le témoignage des saints, et ce qu'on appellerait d'une manière générale la mystique. C'est-à-dire qu'on n'a pas commencé à croire en Jésus, en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, et aux anges il y a seulement 50 ans. Ça a été transmis par l'Église, etc. Mais ça a été vécu aussi par ceux qui nous ont précédés. Si vous deviez éliminer de votre panthéon personnel tous les saints qui ont cru en l'existence des anges ou qui ont vécu dans une amitié avec les anges, il ne vous en resterait plus beaucoup à aimer. Tellement, alors je ne peux pas dire tous, parce qu'il y en a certains qui n'en ont pas parlé, ça ne veut pas dire qu'ils n'y croyaient pas, mais tellement le nombre de saints qui ont vécu dans une amitié avec les anges ou qui ont professé leur foi dans les anges est nombreux. Je vous fais une petite liste, c'est très rapide. J'ai déjà cité quelques théologiens qui sont saints, mais on pourrait rajouter, évidemment, alors pour nous, en France, Sainte Jeanne d'Arc, sans Saint-Michel, il ne se passe pas grand-chose. Elle en parle, c'est très important, Saint-Michel, dans la vocation de Jeanne d'Arc. Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Thérèse de Lisieux, on parle aussi, Saint-Jean de la Croix, plus proche de nous, si vous voulez, Padre Pio. Là, en ce moment, je voyais, il y avait un portrait de lui dans la chapelle, Carlo Acutis, il a beaucoup parlé des anges aussi, Carlo Acutis s'est beaucoup intéressé. Enfin bref, les saints aussi qui nous ont précédés nous témoignent aussi de cet attachement aux anges. Et donc, on ne peut pas se dire non plus, bon, c'était bien pour Sainte Thérèse d'Avila, mais ce n'est pas bien pour moi, quoi. Voilà. Donc, vous voyez, trois raisons, les Écritures, la tradition et la sainteté ou la mystique. Ça va jusque-là ? Alors maintenant qu'on a dit ça et qu'on est tous d'accord pour dire que les anges existent, enfin j'espère qu'on est tous d'accord, et qu'on y croit, c'est intéressant de répondre à une question peut-être qui se pose, c'est quoi un ange en fait ? Parce que bon, c'est bien de dire qu'ils existent, mais c'est important de comprendre un petit peu qui ils sont. Alors il faudrait avoir une définition, c'est pas facile de faire une définition d'un ange. Parce que soit on tombe dans des choses un peu enfantines, alors un ange c'est un petit être avec des joues roses, Et puis des petites ailes dans le dos, et puis si c'est un ange de petite fille, il a une robe rose, et si c'est un ange de garçon, il a une robe bleue. Non, alors non, ça c'est des représentations qui ne correspondent pas à la réalité. Donc il faut avoir une vraie définition théologique, philosophique, qui nous permette de comprendre de quoi on parle. Alors pour faire cette définition, vous allez voir, ça va être très simple, je vais utiliser des mots-clés que je vais essayer de commenter, et à la fin, quand on mettra ces mots-clés ensemble, ça fera une définition à peu près complète, en tout cas suffisante pour comprendre un peu mieux qui ils sont. Alors d'abord, un ange, c'est une créature.
C'est important parce que c'est pas des dieux. Les anges ne sont pas des demi-dieux. Il a fallu que Dieu veuille leur existence pour qu'ils existent. C'est ça la définition d'une créature. Dans les créatures de Dieu, il y a tout ce que nous voyons, tout ce que nous saisissons, tout ce que nous pouvons toucher, tout ce que nous pouvons voir. Mais il y a aussi des choses qui sont invisibles. Les anges sont des créatures de Dieu. Ils ont été créés par Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à exister. Je ne connais pas la date de naissance de Saint-Michel. Hein. Mais Saint-Michel, il y a un moment où il n'existait pas, et puis il y a un moment où il a commencé à exister. Voilà. Sinon, ce n'est pas une créature. Si Saint-Michel avait existé de toute éternité, alors en ce moment, Saint-Michel serait Dieu. Voilà. Il n'y a que Dieu qui peut exister depuis toujours et pour toujours. Donc, les anges, Saint-Michel et les autres, sont des créatures. C'est important aussi de s'en souvenir parce que ça rappelle que fondamentalement, les anges sont des êtres qui sont proches de nous. Parfois, on a tellement tendance à les mettre au-dessus de nous qu'ils deviennent des êtres totalement inaccessibles. On les met tellement du côté de Dieu qu'on en finit par en faire des êtres divins. Ce ne sont pas des êtres divins. Ce sont des créatures comme nous. Ils ont eu un commencement comme nous. Voilà. Ça explique aussi pourquoi on peut considérer que les anges, dans leur être, dans leur existence, les anges, ils sont plus proches de nous qu'ils ne sont proches de Dieu. Je ne parle pas de leur amour de Dieu. Au niveau de l'amour de Dieu, ils sont beaucoup plus proches de Dieu que de nous. Mais dans leur être, dans ce qu'ils sont, parce qu'ils sont des créatures, ils sont plus proches de nous qu'ils ne sont proches de Dieu. Donc, créatures. Ensuite, ce sont des créatures spirituelles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, être une créature spirituelle ? Ben, si vous voulez, dans toutes les créatures qui existent, les visibles et les invisibles, toutes n'existent pas de la même manière. Par exemple, la marguerite, elle existe, mais elle existe avec moins d'intensité que, je dis n'importe quoi, le sanglier. Ben oui, parce que la marguerite, elle naît, elle grandit, elle s'épanouit, elle se rabougrit, et puis elle meurt. Mais en attendant, elle n'a pas beaucoup bougé. Hein. Elle est restée plantée là où elle était plantée. Alors que le sanglier, ben lui, il se déplace. Quelquefois, il se déplace même contre nos pare-chocs en Mayenne. Hein? Et donc le sanglier, il naît, il grandit, il se développe, il mange, mais il peut chercher sa nourriture. La marguerite, si on ne lui apporte pas, elle crève. Il peut chercher de l'eau s'il a soif. La marguerite, si elle a soif, elle ne va pas se déplacer. Elle ne va pas prendre sa petite voiture pour aller chercher de l'eau. Hein? Donc on sent bien que dans les créatures visibles, toutes n'existent pas de la même manière. Toutes existent, mais elles n'existent pas toutes avec la même intensité. Si je continue mon exemple, un homme, il existe avec plus d'intensité quand même que le sanglier, même si je sais qu'il y a des hommes qui ressemblent à des sangliers. Hein ? Un homme, il peut, c'est rare, mais il peut décider de ne pas manger. Alors qu'un sanglier, si vous lui mettez de la bouffe, il la mange. Tant qu'il a faim, il la mangera. Alors qu'un homme peut se dire, j'ai faim, mais c'est le vendredi de carême, donc je ne vais pas me jeter sur 1,5 kg de rillettes. Voilà. Alors que le sanglier, il ne va pas se dire... Il va pas se poser de questions. S'il a faim, il mange. Hein. Voilà. Parce que nous avons une conscience. Nous avons une liberté. Nous avons un libre arbitre. Voilà. Et donc, une créature spirituelle, c'est une créature qui va être capable de connaître, d'aimer et de servir Dieu. Une marguerite et un sanglier, j'ai rien contre les marguerites et les sangliers, mais ne sont pas capables de connaître, d'aimer et de servir Dieu. Ce n'est pas leur vocation, ce n'est pas leur destinée, ce n'est pas ce pourquoi ils ont été créés. La marguerite a été créée pour être jolie dans la prairie, pour qu'on la ramasse et puis qu'on la... Je t'aime un peu, beaucoup, pas... Voilà. Le sanglier a été créé pour faire du bon pâté. Voilà. Et pour détruire nos champs aussi, visiblement. Mais ça, c'est moins drôle. Alors que l'homme, lui, il a une vocation particulière qui est de connaître, d'aimer et de servir Dieu. Eh bien, les anges ont aussi la même vocation que les hommes, de connaître, d'aimer et de servir Dieu. C'est pour ça que ce sont des créatures spirituelles. Ils ont un esprit capable de connaître, d'aimer et de servir Dieu. Nous partageons avec les anges la même destinée, la même vocation et d'éternité. Ça, c'est beau de penser qu'on a la même, on a le même patron, de toute façon, c'est clair, on a le même patron, mais en plus, on a la même destinée. Voilà. Ils ne sont pas dans leur destinée, ils ne sont pas au-dessus de nous. Ils sont appelés, eux aussi, à la communion avec Dieu. Alors, vous verrez même que notre vocation à nous est encore préférable à celle des anges. Ça, c'est très beau. Créatures spirituelles, ce sont des créatures... comment je pourrais dire ça ? Créatures spirituelles... Personnelles. Personnelles. Moi, j'avais un petit peu l'image, je ne sais pas quelles sont les images. Vous savez, quand on pense aux anges, souvent, on a des images en tête qui sont liées à ce qu'on a vu, notamment quand on était petit, etc. Et moi, à cause de ça, j'avais des images un peu fausses des anges, parce que dans les bouquins de caté, ce n'est pas toujours très bien représenté, ou dans des BD, ou dans des trucs comme ça. Et donc, pour moi, j'avais un peu l'impression que les anges étaient tous identiques. Que les anges étaient des espèces de clones avec des ailes dans le dos, quoi. Vous savez ? Eh bien non, les anges, ils sont absolument uniques. De la même manière que chacun d'entre nous est absolument unique, chaque ange est absolument unique. Votre ange gardien n'a pas le même caractère que mon ange gardien. Votre ange gardien n'a pas la même histoire que le mien. Parce que ben, les anges, c'est pas des robots, justement. C'est pas des clones. Chaque ange a sa relation personnelle avec Dieu. Chaque ange a son histoire personnelle avec Dieu. Chaque ange a ses qualités. Chaque ange a ses vertus. Peut-être que mon ange gardien, il a besoin de grandes qualités de patience, parce que je ne suis pas très rapide. Mais peut-être que l'ange gardien de Moïse, il n'a pas besoin de ses qualités de patience. Parce que ben, l'ange gardien de Moïse, il est, comme Moïse est très rapide, ben, il n'a pas besoin de ses qualités de patience. Vous voyez, donc, créature spirituelle, personnelle, pour le moment, la définition d'un ange correspond à la définition d'un homme ou d'une femme. Nous sommes, nous aussi, des créatures spirituelles et personnelles. Après ça bifurque. La suite de la définition marque plutôt la différence avec nous. La principale différence qui existe entre les anges et nous, c'est que les anges, ce sont des créatures spirituelles, personnelles, incorporelles ou immatérielles, si vous voulez. Ils échappent à la matière. Ils n'ont pas de corps. Ce sont de purs esprits. Ça veut dire, alors c'est là où ça change tout, c'est que comme ils sont de purs esprits, leur manière de connaître, leur manière d'agir, leur manière de penser ne sont pas comparables aux nôtres. Moi, pour connaître, pour savoir que ce téléphone est là, j'ai besoin d'avoir la vue ou de toucher. J'ai besoin de mes sens. Tout ce que je connais, ma foi, l'amour, tout ce que j'expérimente dans ma vie quotidienne, j'ai besoin d'un corps pour ça. Sans corps, je ne peux pas vivre ce que je vis. Je connais par mon corps. Je prie par mon corps, avec mon corps. J'aime par mon corps, avec mon corps, mon intelligence, ma volonté, etc. L'ange n'a pas de corps. Du coup, sa manière de connaître, sa manière d'aimer, sa manière d'agir va être différente de la mienne. Ils n'ont pas de corps, ce sont de purs esprits. Alors, je ne vais pas parler des démons, mais comme les démons sont des anges, là, ça permet de comprendre aussi quelles sont les capacités du démon, puisqu'il n'a pas de corps. Il a des capacités angéliques, comme les anges bons, sauf que lui les utilise pour le mal, alors que l'ange bon les utilise pour le bien. Créature spirituelle, personnelle, incorporelle, et puis, qu'est-ce que je pourrais ajouter un dernier mot ? Immaculé, peut-être ? Immaculé dans le sens où les anges n'ont pas été marqués par le péché originel. C'est aussi une grosse différence avec nous. Parce que, on connaît tous l'histoire, un homme, une femme, un serpent, un fruit, un arbre, vous l'avez tous celle-là, hein ? Adam et Ève, vous connaissez tous l'histoire, ben ça a eu des conséquences sur nous. Le fait qu'Adam et Ève, nos premiers parents, se soient détournés de leur vocation, et que ben par la génération, c'est comme ça que sont créés de nouveaux êtres humains, c'est par l'engendrement, eh bien ils nous ont transmis la blessure du péché originel. Alors, on aura tous un petit truc à dire à Adam et Ève quand on les verra là-haut, hein, parce que franchement, on s'en serait bien passé de celle-là. Hein. Mais les anges, eux, comme ils n'ont pas de corps, leur moyen d'exister, c'est par une création directe de Dieu. Il n'y a pas d'engendrement. Il n'y a pas papa ange et maman ange. Hein. Les anges, ils sont tous créés directement par Dieu. Nous, ce qui est créé directement par Dieu pour chacun d'entre nous, c'est notre âme. Dieu a créé notre âme, hein, mais le corps, il vient de nos parents. C'est pour ça qu'on dit des parents qu'ils sont des procréateurs. Voilà. Ils ont procréé. On ne dit pas des parents qui sont des créateurs. Ceux qui ont des enfants, vous n'avez pas été les créateurs de vos enfants. Ne dites pas ça, ne pensez pas ça. Mais par contre, c'est très beau, vous avez apporté votre participation, votre collaboration à la création divine à travers l'engendrement. Ben, les anges, ils n'ont pas de corps, donc du coup, il n'y a pas d'engendrement. Et du coup, les anges n'ont pas été marqués par le péché du démon. Le démon, il a péché, il a entraîné un certain nombre d'autres anges derrière lui, ça c'est vrai, mais il n'a pas transmis la faute. Il n'a pas transmis la trahison. Donc les anges bons n'ont pas été affectés par le péché des anges. Voilà. Donc créature spirituelle incorporelle, donc personnelle, incorporelle et immaculée. Voilà. C'est un exemple de définition. Vous voyez, ça permet d'aborder un petit peu toutes les caractéristiques des anges. Est-ce que ça va jusque-là ou je suis en train de vous perdre ? Ça va ? Je regarde un petit peu ma montre quand même. Voilà. Alors maintenant... Je voudrais, ce sera la troisième partie, puis après on prendra un petit temps pour des questions-réponses si c'est nécessaire. Je voudrais parler singulièrement de la prière aux anges et de l'action des anges, comment les anges agissent. Alors peut-être d'abord comment les anges agissent. Mais on va surtout s'intéresser aux anges gardiens. Parce qu'il existe plein de catégories d'anges, on ne va pas en parler parce que sinon on y est encore demain matin. Il existe plein de catégories d'anges, il y en a certains dont vous connaissez les noms. On dit que Saint-Michel c'est un archange. Et que nos anges gardiens, ce sont des anges. Mais il y a plein de catégories d'êtres célestes, il y en a 9 en tout, d'après la tradition de l'Église. C'est des noms que vous avez déjà entendus dans la Bible, les séraphins, les chérubins, les trônes, les dominations, les vertus, les puissances, les principautés, les archanges et les anges. Voilà. Donc il y a plein de sortes d'anges. On va surtout se concentrer sur les anges gardiens, donc la dernière catégorie des êtres célestes, ceux qui sont directement en contact avec nous. Alors comment ils agissent du coup ? Alors on voit dans la Bible, quand il y a des actions d'anges, souvent, c'est des actions assez manifestes. Alors surtout quand c'est un archange qui débarque. Quand Saint-Michel ou Saint-Gabriel débarquent, c'est pas pour donner la température de l'air, hein, ou pour donner l'heure du jour. Hein. C'est pour Gabriel, quand il intervient, c'est pour dire à Marie, tu vas être la mère du Sauveur. Hein. Ils se déplacent pas pour une petite nouvelle, hein, c'est... Donc quand les anges interviennent, ils le font souvent de manière très importante, très manifeste, etc., dans la Bible, et c'est pour ça qu'on le raconte dans la Bible. Mais ce n'est pas la manière ordinaire d'agir des anges. Comment les anges agissent ? Ça, c'est un auteur du IVe siècle qui s'appelle Basile de Césarée. C'est un prénom qui revient à la mode, Basile. Basile de Césarée, il se pose la question, c'est quoi le rapport entre les hommes et les anges ? Quels sont les points communs, les différences ? Et à un moment, dans un de ses ouvrages, il dit... Voilà, quelque chose qui est évident. Hein. Nous, les hommes, nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. On connaît ça par cœur, c'est la première séance de cathé en général, ça. Créés à l'image de Dieu. Sauf qu'il rajoute un petit mot. Il dit, nous, les hommes, nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, le Fils. Ah, moi, c'était la première fois que j'entendais quelqu'un dire ça, ou quelqu'un écrire ça, et ça m'a intrigué. Donc, il explique. Il dit, oui, parce que nous, notre vocation en tant qu'homme, femme, c'est de ressembler au Fils. Pourquoi Jésus est venu sur terre ? Pour que nous devenions, nous aussi, fils du Père. Dieu, le Père, nous a envoyé son Fils pour que nous agissions comme le Fils, pour que nous aimions comme le Fils, pour que nous servions comme le Fils. C'est comme ça qu'on devient chrétien. D'ailleurs, le mot chrétien, c'est ça que ça veut dire. C'est celui qui est du Christ. Donc il va essayer, le chrétien, c'est celui qui essaye de vivre comme le Christ. Il y a un chant comme ça qui est très à la mode, sans doute qu'on chante à Laval, « Vivre comme le Christ », vous connaissez ça ? Ben voilà, c'est notre vocation. Nous avons été créés à l'image du Fils, et notre vocation c'est de ressembler au Fils. C'est de devenir, jour après jour, un peu plus à l'image du Fils. Et saint Basile continue, il dit « Les anges, eux, ils ont été créés à l'image de Dieu, l'Esprit-Saint. » Alors lui, en plus, il ne s'embête pas. Point à la ligne, et il passe à autre chose. Alors moi, je suis allé voir un théologien spécialiste des Pères de l'Église pour comprendre, mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça signifie que les anges aient été créés à l'image du Saint-Esprit et non pas à l'image du Fils ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Il m'a dit, mais en fait, il faut que tu prennes le raisonnement de la phrase d'au-dessus et tu l'appliques à la phrase d'en-dessous. Alors le raisonnement qu'il avait fait pour la phrase d'au-dessus, c'est dire
Les hommes, nous avons été créés à l'image du Fils, donc nous devons agir, penser, aimer, servir comme le Fils. C'est comme ça qu'on va déployer nos vocations. Et donc il dit, ben, pour les anges, il faut faire le même raisonnement. Si les anges ont été créés à l'image du Saint-Esprit, ça veut dire que les anges agissent comme l'Esprit-Saint. Ils aiment comme l'Esprit-Saint. Ils servent comme l'Esprit-Saint. Alors du coup, on continue le raisonnement. Ça va, vous me suivez ? On continue le raisonnement. Comment il agit, Jésus ? Jésus, il agit, on dira que Jésus, comment il fait pour nous parler du Père, pour nous donner envie d'être fils du Père ? Il le fait par mode de conviction. C'est-à-dire qu'il va essayer de nous convaincre. Et c'est vrai que Jésus, il est très convaincant. Parce que quand on le voit aimer, quand on le voit mourir sur la croix, quand on le voit guérir les malades, quand on le voit prêcher la bonne nouvelle, ça nous convainc. On est convaincu quand on veut bien se laisser convaincre. C'est comme ça que fait Jésus, hein, pour nous attraper. Il nous convainc. Et j'allais dire, un jour, quelqu'un m'a dit « Oui, en fait, ce que vous dites, c'est que Jésus nous drague, si vous voulez. » Jésus nous drague d'une certaine manière. Il nous convainc que nous trouverons en lui notre vocation éternelle, notre joie éternelle. Mais ce n'est pas la façon d'agir de l'Esprit-Saint. On a fêté la Pentecôte il n'y a pas longtemps. L'Esprit-Saint, il n'agit pas par mode de conviction. L'Esprit-Saint, il ne perd pas de temps à nous draguer. L'Esprit-Saint, son objectif à lui et sa manière d'agir à lui, ça va être de nous... C'est un mot un peu piégé parce que souvent on l'attribue aux démons, mais c'est de nous posséder. Vous avez vu comment, dans le livre des Actes des Apôtres, comment l'Esprit-Saint agit lors de la Pentecôte ? Les pauvres disciples, ils sont morts de trouille. Jésus est monté au ciel. Ils sont enfermés dans le cénacle. Ils sont en prière avec Marie, la mère de Jésus, nous dit le livre des Actes des Apôtres. Et l'Esprit-Saint, sans prévenir, hein, il n'a pas envoyé une petite carte avant pour dire « j'arrive dans 5 minutes hein. », l'Esprit-Saint déboule. Il fait claquer les portes et les volets, voilà, le vent violent, les langues de feu, etc., le bruit assourdissant. Tout ça qui sent, qui rentre dans la maison où sont les disciples avec Marie. Et là, ils ne prennent même pas le temps de réfléchir à ce qu'ils font, les disciples. Hein. Ils sortent, ils annoncent l'Évangile. On n'est pas dans la conviction, là. L'Esprit-Saint n'est pas intervenu dans l'intelligence de Pierre, Jacques et Jean et ça pour leur dire « Écoutez, ça serait bien de réfléchir. Peut-être que vous n'allez pas rester enfermé là toute votre vie. Peut-être qu'il faudra envisager d'en parler quand même, de tout ce que vous avez vu, de tout ce que Jésus vous a dit. » Non, non, il ne cherche pas à les convaincre. Il vient, boum, il casse tout, il met le bazar. Ça, c'est le signe de l'Esprit-Saint, souvent. Il met le bazar. Et puis, il engage. Il aide les disciples à s'engager. Tout ça de manière invisible, quasiment. Ils n'ont pas vu l'Esprit-Saint, ils ont vu des langues de feu, il y a eu des signes, le vent violent, etc. Tout ça sans grand discours. Tout ça presque, c'est pour ça que le mot de « posséder », à condition de bien éloigner l'idée du démon, est intéressant. C'est-à-dire que tout ça presque sans le consentement direct des apôtres. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ça leur échappe un petit peu quand même, hein. Vous êtes d'accord, quand l'Esprit-Saint débarque, je ne sais pas si ça vous arrive de temps en temps, il y a une pensée qui vous vient, vous dites « ça, je sens qu'il faut que je le dise. » Et ça vous échappe un petit peu. Même quelquefois, vous le dites, et quand vous l'avez dit, vous dites « Oh, mince, mais j'ai dit ça, moi. » Une fois, il y a une femme qui est venue me voir, j'étais dans une paroisse dans le sud de la France, et puis, à la fin de la messe, elle vient me voir, elle avait l'air assez émue, et elle me dit « Mon père, il faut que je vous remercie, moi, je viens une fois par an dans votre paroisse, mais... Il faut que je vous remercie. Oh, c'est très agréable, les prêtres, nous, quand on entend ça, on adore. Il faut que je vous remercie parce que l'année dernière, vous avez fait une homélie qui m'a bouleversé. Oh, j'étais content. Vous avez fait une homélie qui m'a bouleversé, c'était formidable, etc. Je dis, ah oui, mais qu'est-ce que j'ai bien pu vous dire ? Et ça, depuis, je me suis reconverti. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai bien pu vous dire ? Et elle me dit, ah, je m'en souviens très bien. Je me souviens très bien de ce que vous avez dit. Vous avez dit telle phrase. Et elle me sort une phrase, je ne m'en rappelle même plus. Je vous jure. J'allais dire sur la tête de ma mère, mais il ne faut pas dire ça. Je vous jure que je n'ai jamais dit cette phrase. J'affirme. Ce qu'elle me prêtait comme parole, je sais comment je parle, je ne dis jamais ça. Par contre, c'était très beau. Mais ce n'était pas de moi. Je pense que cette femme-là est venue à la messe ce jour-là. Elle a écouté l'homélie. Elle a reçu quelque chose parce que l'Esprit-Saint est intervenu.
Elle a cru que c'était moi qui l'avais dit, mais moi, je vous assure que je ne l'ai jamais dit. Je ne parle pas comme ça. Je sais comment je parle. Donc, je ne l'ai pas dit, la pauvre. Mais, puis j'étais content quand même du compliment. Donc, mais vous voyez, l'Esprit Saint, là, s'est un peu imposé dans son action. Il n'a pas cherché à la convaincre. Il l'a pas, il l'a renversée avec une phrase qu'elle n'a même pas vraiment entendue avec ses oreilles, mais qu'elle a dû entendre avec son cœur en écoutant l'homélie. Voilà. Tout ça pour dire que si les anges agissent à la manière de l'Esprit Saint, ça veut dire que leur mode d'action va ressembler, d'une certaine façon, à l'action de l'Esprit Saint. Ça veut dire que le mode ordinaire d'agir, la façon ordinaire d'agir des anges, et en particulier des anges gardiens, va être discrète, secrète, presque invisible, presque insensible. La grosse différence avec l'action de l'Esprit Saint, c'est que l'action de l'ange, elle préserve systématiquement notre liberté. Vous avez remarqué comment Gabriel s'adresse à Marie. D'abord, il commence par la saluer, par lui dire qu'elle est comblée de grâce, etc. Il lui présente le projet de Dieu pour elle, mais il attend quand même que Marie donne son consentement, donne son assentiment. Que tout se passe pour moi selon ta parole, je suis la servante du Seigneur. Pareil pour Joseph. Moi, Joseph, il m'impressionne quand même. Il fait des rêves. Il rêve qu'un ange lui apparaît. Il n'a même pas vu l'ange. Il l'a vu en rêve. Et il accepte que sa vie soit bouleversée à trois reprises sur des trucs quand même importants. Moi, il y a un ange qui vient en rêve et qui me dit « La femme d'un tel, là, en fait, l'enfant qu'elle porte, il est né de l'Esprit Saint. » Je ne suis pas sûr, le lendemain matin, de me dire... Vous imaginez la foi de cet homme. Juste avec des rêves, il va accepter par trois fois que sa vie soit bouleversée pour accueillir Marie qui porte un enfant, pour quitter l'endroit où ils se sont installés, Nazareth, pour aller en Égypte, et pour revenir ensuite, pardon, Bethléem, et pour revenir ensuite à Nazareth plus tard d'Égypte. Vous imaginez le... Ça monte encore plus, je trouve, la foi de Joseph. Mais en même temps, l'ange... Il lui a apparu, mais en songe, comme pour préserver un peu sa liberté, pour qu'il puisse dire « Je choisis, moi, d'accueillir Marie. Je choisis, moi, de prendre la femme et l'enfant et de les emmener. » Alors qu'il aurait pu se dire, en se levant le lendemain matin, « Dis donc, j'ai fait un rêve bizarre, moi, cette nuit. » Donc, il a vraiment choisi. L'action de l'ange a permis de conserver la liberté de Joseph. Joseph, ce n'est pas le dindon de la farce. Ce n'est pas la victime collatérale du projet de Dieu. Joseph, il a choisi tout ce qui lui est arrivé. Et ça, c'est caractéristique de l'action de l'ange. L'ange, il nous laisse toujours extrêmement libres. Alors, maintenant, comment il agit de manière très claire? Saint Thomas d'Aquin, au XIIIe siècle, un grand théologien, on le surnomme le docteur angélique. Alors, c'est pas parce qu'il avait une tête de petit poupon adorable. Saint Thomas d'Aquin, on estime qu'il pesait entre 140 et 160 kilos. Oui, donc c'est pas vraiment l'image qu'on a d'un ange. Donc, si on l'appelait le docteur angélique, c'est pas parce qu'il avait une tête d'ange. Si on l'appelait le docteur angélique, c'est parce qu'en fait, il a beaucoup réfléchi sur les anges. Et c'est même celui qui, je pense, a apporté la synthèse la plus complète sur les anges. Bref, saint Thomas d'Aquin dit que les anges agissent par des images ou des pensées, je reprends les mots qu'il utilise, des images, des pensées qui sont pour nous comme des suggestions pour agir selon le bien. Des images et des pensées qui sont pour nous comme des suggestions pour agir selon le bien. Image, pensée. Alors, je vais vous donner un exemple, comme ça, tout sera clair, j'espère. Vous êtes en train de faire vos courses. Vous avez un sac dans le bras, dans la main gauche, un sac dans la main droite, et vous allez jusqu'au coffre de votre voiture. Et vous commencez à charger votre coffre. Donc, vous faites un truc où, normalement, ça ne demande pas une concentration énorme. Voilà, vous faites ça mécaniquement, vous le faites régulièrement, etc. Et puis là, pendant que vous êtes en train de vider vos victuailles dans le coffre, vous pensez à Madame Michu. Alors, il faut que je vous dise qui est Madame Michu, sinon vous n'allez pas comprendre. Alors, Madame Michu, c'est votre voisine. Elle habite à moins de 30 mètres de chez vous. C'est la maison d'à côté, l'appartement d'à côté. Vous ne la connaissez pas bien, Madame Michu, parce que ce n'est pas une amie, vous ne la rencontrez pas spécialement à la paroisse, mais quand même... Une fois, deux fois, trois fois dans la semaine, vous vous croisez parce que ben, Madame Michu, elle est âgée, elle est toute seule, elle n'a pas d'enfant, personne ne vient trop la visiter. Vous avez repéré ça quand même parce que vous êtes chrétien et vous faites attention avec qui vous, à côté de qui vous vivez. Et vous savez que Madame Michu, vous la croisez juste parce que ben, tous les mardis matins à 8h15 précise, elle sort de chez elle pour aller acheter du pain. Et donc vous la croisez régulièrement. C'est pas une amie, c'est pas une proche, mais vous voyez qui elle est, puis vous avez le souci quand même de lui, à chaque fois, de lui dire un petit bonjour et d'échanger quelques mots avec elle, même si c'est jamais aller plus loin. Bon. Vous pensez à Madame Michu pendant que vous êtes en train de mettre vos sacs dans le coffre. Pourtant, il n'y a aucune raison que vous pensiez à Madame Michu. Vous n'avez pas vu un bus passer devant vous avec une grosse photo de Madame Michu dessus. Vous n'avez pas eu vous n'avez pas reçu un texto de signé Madame Michu. Alors, vous pensez à Madame Michu, et là, vous dites, tiens, c'est marrant, je pense que ça fait au moins 3 semaines que je n'ai pas vu Madame Michu. Bon, je rentre, je retourne à la maison, et avant de monter mes courses ou de rentrer mes courses, je vais aller sonner à la porte de Madame Michu. Vous sonnez à la porte de Madame Michu, et là, il y a quelqu'un qui vous répond. C'est sa fille, qui vous dit que maman, elle est partie à l'hôpital, ça fait 3 semaines. Là, je suis là pour garder la maison, puis je vais aller la voir à l'hôpital, mais je dois repartir parce que moi, j'habite pas ici, il faut que je rentre, etc. Mais ça fait 3 semaines qu'elle est à l'hôpital, vous connaissez maman, je savais pas qu'elle avait des amis, etc. Est-ce que vous pourriez aller la visiter, etc. Et du coup, vous allez vous dire, Madame Michu, je vais aller la visiter, je vais aller prendre des nouvelles pour voir comment elle va, je vais essayer de lui apporter quelque chose parce que je sais que si je le fais pas, personne ne le fera. Bon, vous faites ça. Vous pouvez penser que vous avez pensé à Madame Michu en rentrant vos courses parce que vous êtes formidable et parce que vous êtes très très généreux et parce que vous avez un cœur immense. Ou vous pouvez aussi vous dire, mais si l'image de Madame Michu est venue à ce moment-là, si cette image-là, cette pensée-là de Madame Michu est venue à ce moment-là sans que rien ne l'explique, il y a peut-être quelqu'un qui a un peu poussé l'idée dans votre tête, quoi. Et ce quelqu'un, ça, c'est le travail de l'ange. La suggestion. Je trouve que le mot de Saint Thomas est très très juste parce que, mesdames, pour celles qui sont mariées, quand vous suggérez quelque chose à votre mari, normalement, ça veut dire qu'il est libre de ne pas le faire. Normalement. Je te suggère de nettoyer la table. C'est pas la même chose que nettoie la table. Vous êtes d'accord? Bon, je sais souvent que j'utilise la suggestion comme des ordres, mesdames. Et vos maris le savent. Mais la suggestion, il y a l'idée que tu fais, tu fais pas, tu fais ce que tu veux. T'es libre. Voilà. Donc quand saint Thomas parle de l'action de l'ange comme de suggestion par des images ou par des pensées, ça montre bien ce que ça veut dire. C'est que l'ange, en fait, il peut faire naître en nous des désirs de faire le bien, de prier, etc. Mais qu'il ne se substituera jamais à notre liberté. Jamais. Il ne va pas s'imposer. Ce que fait l'Esprit Saint, à certains moments, quand il s'empare des personnes, l'ange ne le fait pas. En tout cas, pas de manière ordinaire. Ça arrive de temps en temps que des anges donnent des ordres. Voilà. Bon, par exemple, le pauvre Zacharie, lui, il en a pris pour son gardien. Le pauvre Zacharie, alors c'était pas son ange gardien, c'était l'archange. Vous vous souvenez, Zacharie, il dit, non, mais de toute façon, cette histoire d'enfant là dont tu me parles, c'est pas possible. De toute façon, ma femme, elle est vieille. En plus, le gars est aimable en plus. Hein. Vous voyez, ma femme, elle est vieille. Il est aussi vieux que sa femme, lui. Hein. Il commence par dire, non, ma femme, c'est pas possible. Bon. Et là, l'archange, il dit, ah, d'accord. Alors je t'explique, moi je suis Gabriel, l'ange du Seigneur, puisque tu n'as pas cru en ma parole, tu resteras muet jusqu'à ce que tout cela arrive. Voilà. Donc là, l'ange se substitue un petit peu à la liberté de Zacharie, on est d'accord. Mais bon, intervention exceptionnelle. Sinon, d'ordinaire, l'ange agit de cette façon-là. Alors vous allez voir maintenant que vous allez comprendre différemment un certain nombre de choses qui se passent dans votre esprit, et si vous vous dites, tiens, là, il y a peut-être une suggestion de mon ange, ça va vous encourager. Par exemple, vous êtes à la messe. Alors, là, je donne un exemple, c'est quelque chose qui ne m'arrive jamais. Mais, vous êtes à la messe. Vous avez une distraction. Moi, ça ne m'arrive jamais. Vous êtes à la messe. Vous avez une distraction. Alors, il y a des distractions qui sont des distractions. Parce que le démon est capable, parce que le démon étant un ange, il peut faire exactement la même chose, hein. Il peut nous suggérer des images et des pensées qui vont nous éloigner du bien. Mais quand vous êtes à la messe, vous avez des distractions qui peuvent venir de votre imagination tout court. Voilà, vous pensez aux poulets frites du repas d'après. Ça, c'est pas votre ange gardien. Hein. Voilà. Mais parfois, vous avez pendant la messe, moi ça m'arrive très souvent, des visages, des situations, des pensées. Et c'est pas toujours des distractions. Ça peut devenir une distraction si vous l'entretenez pendant toute la messe, mais si vous pensez à quelqu'un, si vous pensez à une situation pendant la messe, dites-vous que là, je pense, c'est comme ça que j'essaie de le vivre, tiens, il y a une petite invitation de mon ange gardien là, à prier pour ça, à prier pour cette personne. C'est pas toujours des distractions. Ça devient une distraction si on l'entretient et qu'on en fait n'importe quoi, mais ça peut n'être qu'une suggestion de notre ange gardien qui nous encourage à prier pour telle situation, à demander pardon pour telle situation. Ah, voilà, c'est si vous repensez, pour ceux qui sont mariés, si vous repensez à l'engueulade de la veille, hein, pendant la messe, ça veut dire que ça n'a pas été réglé, si vous y repensez pendant la messe. Donc ça veut dire qu'il va falloir ou demander pardon, ou avoir une discussion, en tout cas, voilà, qu'il faut régler le truc. C'est pas toujours des distractions. Toutes les pensées extérieures à la prière qui viennent pendant la prière, je dis la messe, mais ça peut être pendant n'importe quelle prière, ne sont pas toujours des distractions. Ça peut être des suggestions de notre ange. Vous voyez la différence entre l'action de l'Esprit-Saint, l'action de l'ange, etc. Donc l'action de l'ange, et je termine par là, en soi, votre ange, il agit toujours au mieux pour vous. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, ah oui, mais du coup, pourquoi prier notre ange gardien s'il fait toujours ce qu'il faut? En vrai, je vais être très, très clair avec vous, ça ne sert à rien de prier son ange gardien. Qu'est-ce qu'il me raconte, ce curé-là? Ça ne sert à rien dans le sens où votre prière ne va pas rendre votre ange gardien plus efficace. Il ne va pas se dire, bon, bah, il insiste tellement que je vais faire ce qu'il me demande. Non, c'est pas ça. Notre ange, il agit toujours, il fait toujours le bien, il fait toujours ce qu'il a à faire. Ce que peut changer la prière et ce que change la prière à notre ange gardien, c'est que la prière à notre ange gardien nous aide à accueillir les suggestions de notre ange gardien. C'est à ça que ça sert la prière. C'est pas pour transformer son action. Son action, elle est déjà là, elle est déjà bonne. C'est pour transformer notre capacité à accueillir son action. Et ça, ce que je vous dis là, c'est vrai pour toute prière. Pas seulement la prière aux anges. Je vais vous donner un exemple parce que c'est quelque chose qui vous a touché certainement les uns et les autres dans votre existence. Voilà, quand on a quelqu'un qui est malade, vous apprenez qu'une personne que vous aimez est atteinte d'une grave maladie, un cancer. Et que vous vous dites, bon ben, c'est pas grave, je vais prier tout ce que je peux. Donc je vais prier, il y en a qui l'ont fait, je suis sûr, moi ça m'est arrivé, dans certaines situations, de prier. Et pour certaines situations, j'ai prié plus que jamais de toute ma vie, hein. Moi, j'ai prié les chapelets, etc. Donc vous vous dites, allez, j'ai prié 10 chapelets par jour. Bon, parce que vous êtes très très motivé. Vous n'avez vraiment pas envie que cette personne meure. Et ce qui peut arriver, c'est que malgré tous vos efforts, toutes vos prières, cette personne meurt. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous pensez que Dieu est là, juste au-dessus de vous, derrière votre épaule, en train de se dire, ah ben c'est dommage, s'il avait dit 11 chapelets, je l'aurais sauvé. Vous rendez bien compte qu'il y a un problème. Si on pense que la prière, c'est ça, bon, faut pas être chrétien. Faut se faire musulman. Parce que pour le coup, c'est la vision qu'ils ont de la prière. Mais c'est pas du tout une vision chrétienne, ça. Quand on prie, Dieu, les saints, Marie, les anges, c'est pas pour arracher quelque chose à Dieu. C'est pas pour lui obtenir de lui quelque chose qu'il ne nous donnerait pas si on le lui avait pas demandé. Dieu, rien n'échappe de ses mains. Tout ce qu'il nous donne, il veut nous le donner. C'est pas « Oh mince, j'ai fait un miracle, zut, je voulais pas. » Il a tellement prié qu'il m'a arraché un miracle. Non, c'est pas ça. La prière, elle n'est pas là pour arracher quelque chose à Dieu, elle est là pour nous disposer à ce que Dieu va effectivement nous donner. Et parfois, la réponse de Dieu à notre prière, c'est oui. Parfois, c'est non. Parfois, c'est « Attends un peu ». Même souvent, c'est « Attends un peu ». Moi, je lui demande tous les jours de me convertir contre un trait de caractère que j'ai. Bon, j'ai l'impression que la réponse, pour le moment, c'est beaucoup « attends un peu ». Voilà. Mais c'est pas pour ça qu'il faut que j'arrête de demander, parce qu'en fait, plus je lui demande, plus je vais me rendre disponible à l'action qui va effectivement me transformer. Quand on prie pour un malade et qu'on n'obtient pas la guérison de la maladie, la guérison de la personne pour laquelle on a prié, ça ne veut pas dire que notre prière n'a pas été efficace. Ça ne veut pas dire que Dieu se fiche de notre prière. Ça veut dire que Dieu a répondu à notre prière d'une manière inattendue, mais qui était la bonne réponse à notre prière. Je vous donne un dernier exemple, et puis comme ça, après, j'arrête. J'étais petit, dois avoir 12 ans, 13 ans, et mes parents m'apprennent que ma grand-mère est très malade. Voilà, ils me disent, ta grand-mère est très malade, et puis ils ne me cachent pas la vérité, ils me disent, ta grand-mère va probablement mourir. Bon, moi je me suis dit, 12, 13 ans, je me suis dit, moi j'ai pas du tout envie que ma grand-mère meure. Ça ne m'intéresse pas du tout, cette histoire. Donc, c'est pas grave, je vais prier. Je pense que c'était la première fois que je me disais, là, j'ai prié vraiment pour quelque chose, et puis je vais le faire tout seul, parce que je m'étais dit, là, c'est important, il faut que je mette de ma peau, quoi. Donc, j'ai prié comme un débile. Je pense que j'ai jamais autant prié depuis. Donc, j'ai prié beaucoup, beaucoup, et puis une semaine après, mes parents me reprennent avec eux, ils me disent, voilà, bah, Pierre, il faut qu'on dise, ta grand-mère est morte. Oh, ouais. Dans mon cœur, je me suis dit, oh, mais quelle horreur, ma prière, là, Dieu, il s'en fiche, ou quoi, c'est pas normal. Ça va pas du tout. Donc, c'est des choses qu'on s'est tous dit à un moment ou à un autre. Hein. Mais dans le cœur d'un petit garçon de 12 ans qui a beaucoup prié, ça peut être dur. Donc quelques jours après, on était aux obsèques de ma grand-mère. Et puis pendant qu'on mettait le cercueil dans le trou, là, donc pas le moment le plus agréable pour un gamin, j'étais en train de pleurer. Et puis il y avait à côté de moi un oncle, un autre que l'oncle de tout à l'heure. Hein. Il y avait un oncle qui me dit, qui voyait que j'étais en train de pleurer, je pense qu'il voulait me donner des paroles de consolation, etc. Il m'a dit quelque chose que j'ai compris beaucoup plus tard. Mais il m'a dit, tu sais, Pierre, toi, tu t'en rendais peut-être pas compte, mais ta grand-mère... Tu sais, Pierre, il y a des gens qui ont dû beaucoup prier pour ta grand-mère. Alors moi, j'avais très envie de lui dire, visiblement, j'étais tout seul et ça n'a pas suffi. Hein. Je sais pas ce que vous avez fait, vous, mais si vous aviez prié autant que moi, elle serait peut-être pas morte. Hein. Voilà, donc j'étais un peu en colère, mais je ne l'ai pas dit, hein, j'étais trop petit. Mais il me dit, tu t'en rends peut-être pas compte, mais ta grand-mère, elle avait très très peur de la mort. Et ça, c'est vrai. Je m'en souviens très bien que si on évoquait la mort, mais la mort de quoi que ce soit, d'un chien, de Napoléon, de ce qu'on voulait, alors, et si on évoquait sa mort à elle, alors là, elle était sous la table. Et qu'elle perdait totalement ses moyens, c'était une défaillance psychologique, on va dire, de ma grand-mère, une fragilité, c'est que l'évocation de la mort lui faisait immédiatement perdre tous ses moyens. Elle était paniquée par l'idée de la mort. Et ça peut se comprendre. Hein. Donc il me dit, ça, tu t'en rends peut-être pas compte, mais ta grand-mère, elle avait très très peur de la mort. Eh bien, ta grand-mère, ça fait 3 semaines qu'elle sait qu'elle va mourir. Et elle a été jusqu'au bout dans une paix incroyable. Moi, sur le moment, ça ne m'a pas vraiment consolé parce que ça ne la faisait pas sortir du trou. Mais plus tard, des années plus tard, j'ai compris qu'en fait, moi, si mon ange m'était apparu à ce moment-là et m'avait dit, Pierre, il y a 2 solutions. Soit ta prière va servir à faire vivre ta grand-mère 2 mois de plus, 2 ans de plus, 10 ans de plus. Et à un moment, quand même, il faut que ça se termine. Hein. Soit ta prière, elle va servir à ce que ta grand-mère meure dans la paix, réconciliée en plus avec un de ses fils avec lequel elle ne parlait plus depuis 10 ans. Tu choisis quoi ? J'aurais été quand même le dernier des salauds que de dire « Non, mais moi, je veux la première solution. » Parce que moi, je l'avais plus longtemps pour moi. Ça aurait été très égoïste, vous êtes d'accord? Et je pense que ma grand-mère, si on lui avait dit « Vas-y, tu choisis », elle aurait aussi choisi la 2e solution, je pense, au fond. Parce que sa grande souffrance, c'était de ne pas être réconcilié avec son fils. Donc si on lui avait dit « Bah écoute, c'est la fin. Le cadeau, c'est que tu vas te réconcilier avec ton fils », elle aurait pris tout de suite. Donc, vous voyez, la prière, on sent à travers un exemple comme ça, que ma prière sincère, c'était... demander la vie pour ma grand-mère, mais Dieu lui a donné la vie en abondance. Voilà. Et ce qui était beaucoup plus important pour elle. Pour moi, moi je suis resté frustré quand même, hein, parce que personne n'a envie de voir mourir les personnes qu'il aime. Mais, si je regarde les choses avec un regard de foi, je me dis, ma prière, elle a été sublimée par la volonté de Dieu. Elle a été, en quelque sorte, améliorée par la volonté de Dieu. Et je préfère le choix que Dieu a fait plutôt que le choix que j'aurais fait. Voilà. Sur le moment, on a le droit de ne pas se dire ça. Hein. Quand on perd un proche, on a le droit d'être en colère, on a le droit d'être triste, bien sûr. Hein. Mais après coup, on peut se rendre compte qu'il y a un mystère qui s'est passé parce qu'on a prié justement. Il y a quelque chose qui nous a été donné ou qui a été donné à notre défunt qui est plus important que ce qu'on avait demandé. Voilà. Même si sur le moment, on a le droit de ne pas être content, évidemment. Voilà, donc un encouragement, si vous voulez, ce petit temps de discussion, c'est un encouragement à vivre dans cette communion avec les anges qui veillent sur nous, qui agissent à être plus disponibles à leur action, plus disponibles à leurs suggestions, et à vivre avec eux, à faire l'expérience avec eux de cette bienveillance de Dieu. Dieu qui mène toutes choses à leur accomplissement, Dieu qui mène toutes choses vers la vie et la joie éternelle. Et plus on vit dans la communion avec les anges, plus on devient sensible au monde invisible, plus les portes du ciel deviennent transparentes. Voilà. Parce que le ciel, c'est pas juste un truc pour après. Le ciel, ça commence maintenant. La vie éternelle, elle a déjà commencé depuis le jour de notre baptême. Et donc, vivre en communion avec les anges, bah, c'est une bonne manière de s'entraîner au ciel, de se préparer au ciel et vivre déjà dans cette communion avec les êtres invisibles. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Là, je vous ai fatigué, je pense. Hein. Une heure de concentration, vous êtes fort. Hein. Pour moi, la différence, elle se situe dans le fait que l'Esprit Saint va... alors, l'Esprit Saint ne viole pas notre liberté, hein, mais l'Esprit Saint, il s'impose beaucoup plus. L'Esprit Saint, il s'impose beaucoup plus. Par exemple, vous allez dire quelque chose, et aussitôt que vous l'avez dit, vous dites, mais j'ai dit une énorme idée. J'ai dit quelque chose qui m'a échappé, et pourtant, je sens que la parole de la personne en face, c'était ce qu'il fallait que je lui dise. Et je ne l'ai pas préparé. Simplement, je me suis laissé porter par ma bienveillance, ma charité, etc. Et l'Esprit Saint m'a fait dire ce qu'il fallait dire. Ça sera le rôle de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, par exemple, vous connaissez, hein, l'Esprit Saint, c'est les sept dons de l'Esprit Saint, la force, la piété, etc. Le conseil. Donc, il va surtout agir à travers ces dons-là. Et ça nous échappe un petit peu. Par exemple, je sais pas, le Père a évoqué ce matin là, les missionnaires qui quittent leur pays, qui vont loin, qui risquent. Ceux-là, ils sont habités d'un esprit de force qui leur échappe un petit peu. Quand un gamin de 25 ans, comme, même pas 23 ans, comme le bienheureux Théophane Vénard, dit « Moi, je veux partir au Tonkin », alors qu'il sait très bien, en Cochinchine, pardon, alors qu'il sait très bien que l'espérance de vie d'un missionnaire à la fin du 19e siècle en Cochinchine, c'est 3 semaines et demie. 3 semaines et demie. C'est-à-dire que les gars, ils viennent, ils débarquent, ils apprennent la langue pendant 5 ans avant. Ils viennent, ils débarquent, ils ont une espérance de vie de 3 semaines et demie. Sur une période de 20 ans, les missionnaires, ça part à la chaîne. On sent bien qu'il est habité d'un esprit de force qui lui échappe un petit peu. Lui-même ne doit pas trop se rendre compte. C'est pas de la folie. Hein. Il le choisit, il le veut, il l'a décidé, mais il est habité par un esprit de force qui est un peu surhumain. C'est pas normal de se dire « Je vais aller dans un pays... » On va me buter au bout de 3 semaines et demie, ça va être super. C'est pas normal. Et pourtant, lui, ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit. Il est pressé de donner sa vie. Alors, c'est pas du suicide. Il a quand même envie d'échapper à la mort. Hein. Mais il sait qu'il y a la possibilité pour lui de donner complètement sa vie. Et il y est prêt. Mais pas... C'est le martyr. Le martyr, c'est l'expression suprême du don de force. Les martyrs... Si vous vous dites, moi, j'ai pas envie de mourir martyr, c'est normal. Parce que les martyrs reçoivent, au moment où le martyr se présente, un don de force, qui est un don de l'Esprit-Saint, et qui les dépasse. La petite Blandine, on a fêté les martyrs de Lyon, là. La petite Blandine, à quelques... Oui, à 13 ans, 14 ans, quand elle meurt, la petite Blandine, elle n'a pas envie de mourir. Pas du tout. Mais simplement, à ce moment-là, encore une fois, je suis obligé d'utiliser le mot, parce que je trouve que c'est le mot en français qui correspond mieux. Elle est comme possédée par l'Esprit-Saint, habitée par l'Esprit-Saint, par un don de force spécial de l'Esprit-Saint, qui lui permet de rendre témoignage du Christ, y compris en versant son sang. Mais c'est normal de ne pas avoir envie de mourir martyr. Hein. Mais parce que quand on dit, quand on vous pose la question, a priori, à ce moment-là, vous n'êtes pas habité par le don de l'Esprit-Saint, le don de force. Ouais, la différence, ce sera ça, c'est qu'il y a quelque chose de presque surhumain, en tout cas de surnaturel, dans l'action de l'Esprit-Saint, alors que l'ange, il va passer par des moyens naturels. L'image, la pensée, la suggestion. Oui ?
Moi, je suis guide de sépulture et de temps de prière dans le crématorium, et je constate effectivement, quand je prépare, ou quand je rencontre la famille, ou même pendant la célébration, que je suis habitée, enfin que l'Esprit-Saint me guide. Mmh. Et notamment dans la rédaction du commentaire, parce que je n'ai pas fait de théologie, je suis toute simple chrétienne, simple croyante. Et ben voilà, ça m'est donné.
Alors par exemple, là, c'est un bon exemple, quand on doit parler au nom du Christ, l'Esprit Saint va pouvoir agir en nous donnant par exemple un don d'intelligence, mais l'ange aussi va pouvoir agir par exemple en nous suggérant, tiens, tu devrais lire tel bouquin. Mais si tu ne le lis pas, le bouquin ne rentre pas en ta tête. Hein. Et l'ange, il va nous suggérer le bouquin, mais là où on engage notre liberté, c'est que le bouquin, il va falloir le chercher, il va falloir le lire. Vous voyez ? Alors que l'Esprit Saint, lui, il va plus intervenir par des motions, c'est comme ça qu'on dit pour l'Esprit Saint, par des motions, c'est-à-dire des choses qui, tac, ça nous habite, ça nous dépasse, on sent qu'on est inspiré. Voilà. L'ange ne procède pas par inspiration, l'Esprit Saint inspire. Il y a trois verbes qui sont un peu importants quand on parle des anges pour distinguer les saints, les anges et l'Esprit Saint. Les saints, ce n'est pas des anges sans ailes. Hein. L'Esprit Saint, il inspire. Les saints, ils intercèdent. Les anges, ils interviennent. L'Esprit Saint inspire. Le saint intercède, l'ange intervient. Moi, j'aime beaucoup, j'ai un gros défaut, c'est que je perds souvent mes clés de voiture. Alors justement, il y a quelques années, je suis allé au sanctuaire de Saint-Antoine de Padoue à Brive, à côté de Brive. Donc j'ai acheté un petit porte-clés de Saint-Antoine. Alors maintenant, je perds mes clés deux fois moins qu'avant. C'est déjà pas mal. Du coup, pour compléter, j'ai mis un petit GPS. Voilà. Donc avec ça, normalement, au bout d'un moment, je m'en sors, je finis toujours par retrouver mes clés. Voilà, j'ai Saint-Antoine et le GPS. Vous voyez, je fais confiance aux anges, mais je fais confiance aux saints, mais je fais aussi confiance à la technique. Bon. Donc, admettons qu'un jour, je perde vraiment mes clés. Voilà, pourtant, je sais, je crois savoir où elles sont, je cherche à l'endroit où je pense qu'elles sont, je ne les trouve pas. Je cherche partout dans mes poches, même dans mes poches de soutane, il y en a plein là, des poches. Donc je cherche, je ne trouve pas. Et puis, une heure après avoir cherché pendant une heure, avoir demandé à tout le monde, est-ce que vous avez mes clés, je refouille dans mes poches de soutane et je tombe sur les clés. Alors, ça, c'est ce qui m'arrive souvent et je ne pense pas que ce soit un miracle. Je pense que c'est que j'ai mal regardé. Admettons qu'un jour, il y ait vraiment un miracle. C'est-à-dire que, vraiment, mes clés, elles sont vraiment passées d'un endroit à un autre. Ça pourrait arriver. Hein. Je ne pense pas que Dieu perde son temps avec ce genre de bêtises, mais voilà. Il y a vraiment un miracle. J'avais regardé sur cette table, je me retourne 5 minutes après, elles n'étaient pas là, puis elles sont là. Il y a un vrai miracle. Qui fait le miracle, matériellement? Qui est-ce qui se charge de déplacer la clé de l'endroit où elle était vraiment jusqu'à l'endroit où je vais la trouver, d'après vous? Ce n'est pas Saint-Antoine. Saint-Antoine, il ne peut pas agir sur la matière. Parce que Saint-Antoine, c'est un saint. Donc Saint-Antoine, j'ai beau le prier, ce n'est pas lui qui fait le miracle, en réalité. Il peut intercéder auprès de Dieu pour qu'il y ait un miracle. Mais celui qui va faire le déplacement physique, c'est qui? C'est un ange. Alors le mien ou un autre. Mais l'ange, il a une capacité d'action sur la matière que le saint n'a pas. Ça, c'est Saint Thomas qui dit ça, qui dit que le saint, en fait, c'est assez logique. Il n'a pas de raison d'aller se balader ici pour aller bouger des clés, c'est pas son boulot. Alors que l'ange, il a une capacité d'action sur la matière, et ça, on peut le savoir et on peut en être convaincu par la négative, c'est par l'action du démon. Vous savez qu'il y a des actions matérielles du démon. Regardez le témoignage de la vie du brave saint curé d'Ars. On nous raconte que certaines nuits, pour l'empêcher de se reposer, le démon foutait le feu à sa paillasse. Ou qu'il lui balançait sa table de nuit à la figure pendant la nuit. Donc il y a un déplacement de matière, on va dire, clairement. Eh bien, l'ange mauvais est capable de faire ça. L'ange bon en est aussi capable. Simplement, lui, il ne s'amuse pas à allumer des feux et il ne s'amuse pas à déplacer des clés en réalité. Mais bon. Mais c'est-à-dire que l'ange, il est capable d'agir sur la matière, l'ange bon. Sauf que lui, ça va être pour le bien, alors que le démon, ça va être pour le mal.
Que devient notre ange gardien lorsqu'on meurt?
Que devient notre ange gardien lorsqu'on meurt? Eh bien, retraite. Et il est mis à la retraite. Alors ça, c'est beau parce que d'après Saint Augustin, d'après Saint Thomas,
Tous les anges tous les êtres célestes ont été créés en une seule fois. Allez. Ils ont tous été créés d'un coup. Alors l'avantage, c'est que ça ne prend pas beaucoup de place. Ils n'ont pas de corps. Donc il n'y a pas de problème de gestion de stock. Hein. Mais ils ont tous été créés d'un coup. Saint Thomas exclut la possibilité que l'ange, que Dieu continue à créer des anges là maintenant. Il dit non, Dieu, il est assez grand pour... Il a tout planifié. Donc il sait de combien d'anges il avait besoin. Il a fait ça d'un coup. Comme ça, on ne remet pas en marche la machine pour créer les suivants. Bref, non, ça c'est une image. Mais, et donc, tous les anges ont été créés. Donc, votre ange gardien a été créé, d'après saint Thomas, en même temps que la création visible, d'après saint Augustin, avant la création visible. On leur posera la question quand on les verra. Mais donc, ils ont été créés il y a très très longtemps. Votre ange gardien a été créé il y a très très longtemps. Il a attendu votre venue à l'existence. Sa mission, c'est de prendre soin de vous pendant votre vie sur cette terre, et après, eh bien, les liens de charité qu'il aura tissés avec vous au cours de votre existence, que vous aurez tissés avec lui, feront que vous serez ensemble au ciel. Ben oui. Vous vous souvenez de ce que dit saint Jean, hein, au ciel nous serons jugés sur l'amour, et puis saint Paul, pardon, qui dit qu'au ciel il ne restera plus que la charité. L'espérance et la foi ne seront plus utiles, parce qu'on n'aura plus besoin d'espérer. On n'aura plus besoin de croire, puisqu'on verra, on sera dans la vision, on n'aura plus besoin de la foi. Par contre, ce qui demeurera, c'est la charité. Or, il existe entre nous et notre ange des liens de charité. Alors, au moins de son côté. Parce que lui, il nous aime, même si on ne fait rien pour lui. Il nous aime de toute façon. Donc, ce lien de charité, il ne meurt pas après la mort. Donc, ben, on sera avec notre ange gardien à fêter la victoire du Christ. Alors, on dit qu'il faut donner un prénom à notre ange gardien. Je ne sais pas qui dit ça, mais ce n'est pas l'Église. L'Église, elle l'encourage à ne pas donner de nom à notre ange. Je vous explique pourquoi. Je sais qu'il y a une tendance, alors il y a une hérésie il y a 1500 ans, où c'était une obligation dans certaines communautés hérétiques de baptiser. C'est-à-dire qu'il y avait une procédure de baptême. On baptisait son ange gardien. Oui, n'importe quoi. L'Église a toujours demandé de faire attention à ça, parce que, en fait, notre ange, il a déjà un nom qui lui a été donné par Dieu. Ce nom-là, qui lui a été donné par Dieu dès sa création, ce nom-là, on ne le connaît pas. Voilà, on ne le connaît pas. Inconnu au bataillon. Mais, alors, si vous souhaitez donner un surnom à votre ange gardien, pour avoir une amitié, une relation plus simple avec lui, vous pouvez le faire. Mais vous devez le faire en sachant que ce n'est pas son nom. Saint Padre Pio le faisait. Saint Padre Pio, il avait donné un surnom à son ange gardien. Saint Jean 23 donnait un surnom à son ange gardien. Par contre, ce surnom que vous lui donnez, moi, je vous invite à le garder pour vous. C'est que c'est pas quelque chose qui... Ouais, mon ange, il s'appelle Jean-Michel. Non, ça te regarde. Enfin, et puis, il s'appelle pas comme ça. Tu lui donnes ce nom-là pour t'aider dans ta prière, etc. Très bien, mais tu le gardes pour toi. Donc, toutes les histoires de « vas-y, cherche dans la Bible, ouvre une page au pif, mets ton doigt à tel endroit, et tu verras le nom de ton ange gardien. » Alors déjà, je vous invite à pas faire ça, parce que vous allez tomber sur le mot « table » ou « chaise ». Voilà, vous n'avez pas appelé votre ange comme ça. Mais en plus, ce qu'il y a derrière, c'est un petit peu l'idée que toi, tu peux nommer ton ange, du coup, il devient un peu à toi, encore plus à toi. Non, notre ange, en fait, ce qu'il faut bien dire, c'est que notre ange gardien, il n'est pas à notre service. Quelquefois, on a cette expression-là, que je comprends, hein, dire voilà, notre ange, il est à notre service. En fait, il faut faire attention. Notre ange, il est d'abord au service de Dieu. Et au service du projet que Dieu a pour nous. Ce qui n'est pas la même chose. Parce que votre mari, mesdames, il n'est pas à votre service, en réalité. C'est lui qui choisit de vous servir. Ce n'est pas la même chose. Sinon, vous faites de votre mari un domestique. On ne peut pas faire de son ange un domestique. On ne peut pas faire de son ange un domestique. On ne peut pas faire d'un être qui nous est largement supérieur, parce que les anges, ils nous sont supérieurs de plein de manières, en sainteté, en puissance, en intelligence, en volonté, etc. On ne peut pas faire d'un être supérieur à nos esclaves. Ce n'est pas possible. Donc, on évite, dans l'Église catholique, on invite à faire attention à tout ce qui pourrait ressembler à de la domination qu'on exercerait sur l'ange. Voilà, je maîtrise mon ange. Je lui dis, fais ceci, fais cela. Voilà. Ou quand je l'appelle, il vient. C'est pas ton chien. Voilà. Une fois, il y a une dame, je raconte cette histoire parce qu'elle est à la fois touchante et en même temps un peu effrayante, mais une dame, j'étais au Mont-Saint-Michel, je fais un enseignement sur les anges, un petit peu dans ce genre-là, et puis et une dame à la fin qui vient me voir et qui me dit « Ah, merci, ça m'a fait beaucoup de bien, moi je prie beaucoup mon ange, je prie beaucoup Saint-Michel en particulier, je prie beaucoup Saint-Michel, etc. » Alors je lui dis vraiment intéressé, je lui dis « Ah oui, mais ça m'intéresse du coup, qu'est-ce que vous faites vous pour prier Saint-Michel? Comment vous priez Saint-Michel ?» Elle me dit « Ah bah oui, moi j'ai appris ça, on m'a appris ça il y a quelques mois ou quelques années, c'est vraiment super et puis ça marche très bien. » Quand quelqu'un vous dit ça à propos d'une prière, inquiétez-vous, hein. Si quelqu'un vous dit « Vas-y, fais cette neuvaine, ça marche très bien », c'est pas bon signe. Hein. C'est pas ça qu'il faut dire. C'est « Fais cette neuvaine, moi, ça m'a transformé. Fais cette neuvaine, moi, ça m'a nourri, ça m'a consolé, ça m'a encouragé. Fais cette neuvaine, ça marche très bien, ça ressemble vraiment à une boîte de médicaments. Hein. » Voilà. Et Jésus, c'est pas du guronzan. Voilà. Et encore moins du Xanax. Voilà. Bref. Donc elle me dit, ben voilà, moi, donc on m'a appris ça, donc le soir quand je rentre du travail, ah oui, juste avant elle me dit qu'elle est catéchiste dans sa paroisse. Bon, alors le soir quand je rentre du travail, tous les soirs je fais la même chose, ce petit rituel qu'on m'a appris, donc je rentre dans ma maison, j'ouvre la porte, je laisse la porte ouverte, là je commence à m'inquiéter, hein. Je laisse la porte ouverte, je vais à la cuisine, je prends un verre d'eau et je le remplis d'eau, mais pas jusqu'en haut, pas jusqu'en bas, bien au milieu. Moi, j'attends la suite et je me dis, ça va être grave, là. Alors, ce verre d'eau, je le bois pas, je le mets derrière la porte que j'ai laissée ouverte. Et puis, je me mets sur le... Tout ça est véridique, hein, je n'invente rien. Je me mets sur le... devant la porte d'entrée ouverte, vers l'extérieur, et je crie par trois fois, enfin, je dis par trois fois, « Ange Saint-Michel, Ange Saint-Michel, Ange Saint-Michel. » Je rentre chez moi, je ferme la porte, je bois le verre d'eau, j'ouvre la fenêtre, Saint-Michel est là. Alors, je lui ai dit, c'est quoi l'histoire de pourquoi vous ouvrez la fenêtre? C'est pour qu'il puisse sortir quand il a envie. Catéchiste. Alors, j'ai pris, j'avais pas prévu, mais j'ai pris un quart d'heure pour lui expliquer que ce que l'on, que c'est du charlatanisme, que c'est de la sorcellerie, et que si jamais il se passe quelque chose, c'est pas Saint-Michel. C'est le malin. Quand un ange vous obéit, pas Saint-Père de Pillon, si un ange vous obéit, c'est que c'est un ange mauvais. C'est clair comme ça. Hein, voilà. Si un ange vous obéit, c'est que c'est un ange mauvais. L'ange, il ne nous obéit pas. L'ange, il sert le projet de Dieu. Donc aussitôt qu'il y a des histoires de domination, il n'y a qu'un seul type d'ange qui accepte de se faire dominer pour ensuite nous dominer, c'est les démons. C'est très clair. Vous avez vu, hein, les anges dans l'Ancien Testament, quand il y a un ange qui déboule, les gars, ils se couchent par terre. Hein. Ils ont peur. Parce qu'un ange, c'est grand, un ange, c'est puissant. Alors nous, à cause d'un certain nombre d'images et puis de petits trucs comme ça, là, qui sont un peu rentrés dans le christianisme, il faut le dire, hein, notamment avec les influences du New Age, etc., de l'ésotérisme, etc., l'ange, c'est devenu un pote. C'est pas un pote. À la limite, on peut dire un ami, parce qu'un ami, c'est celui qui va te corriger quand tu te plantes. D'ailleurs, dans la Bible, on parle de l'ange comme d'un compagnon, d'un ami, d'un frère, etc. Mais ce n'est pas un pote, ce n'est pas un domestique, ce n'est pas un serviteur, etc. Donc si vous avez un ange qui vous obéit, méfiez-vous, arrêtez de vous adresser à celui-là, et puis priez Saint-Michel. Mais voilà, notre ange, il n'est pas censé nous obéir. Si vous obéit, ce n'est pas bon signe. C'est un peu comme votre mari. Si vous obéit tout le temps, c'est qu'il y a un problème. Oui ?
Par rapport aux chérubins et séraphins.
Oui.
Parce qu'on les voit, on les voit avec des ailes et tout. Et par rapport aux anges, qu'est-ce que...
Alors, les séraphins, les chérubins, les trônes, les dominations, les vertus, les puissances, les principautés, les archanges et les anges, donc c'est 9 catégories d'anges. Dans la Bible, il y en a un certain nombre d'entre elles qui nous sont représentées, décrites plutôt, notamment dans le livre d'Ézéchiel, dans le livre de Daniel, dans le livre d'Isaïe. On a des représentations avec un nombre d'ailes. Alors si vous regardez par exemple la représentation chérubins, si j'ai bonne mémoire, à moins que ce soit les dominations, mais je crois que c'est les chérubins, dans le livre d'Ézéchiel. Donc c'est une histoire de roues, d'ailes, Dieu avec des yeux partout, des ailes partout, etc. Si vous en croisez un comme ça dans la rue le soir à 21h, à 6h du matin, vous êtes encore en train de courir. Hein. Donc cette description prophétique du livre d'Ézéchiel, d'Isaïe, de Daniel, etc., ou même dans le livre de l'Apocalypse, ne sont pas des descriptions matérielles. Ce sont des descriptions spirituelles. Les anges n'ont pas de corps, donc ils n'ont pas d'ailes. Après, alors justement, dans Tobie, dans les apparitions, dans certains événements mystiques, les anges peuvent se manifester corporellement. Tobie, par exemple, il y a un homme, croit-il, qui accompagne Tobie pendant tout son voyage un petit peu initiatique, là, et seulement à la fin, ce personnage dit « Tu as cru que j'étais un homme comme toi, mais en réalité, je suis Raphaël, l'un des sept anges qui se tiennent en présence de Dieu. » Mais ce n'est pas Raphaël qui est apparu et qui a planqué ses ailes dans son petit sac à dos. Vous voyez, ce n'est pas ça. Il a pris une apparence corporelle qui était celle qui était nécessaire à sa mission, mais Raphaël ne ressemble pas à un homme. Il ressemble à rien, puisqu'il n'a pas de corps. Mais pour se manifester aux hommes, les anges peuvent prendre une apparence. Un autre exemple que je peux vous donner, c'est la très belle apparition aux petits-enfants de l'île Bouchard, près de Tours. Il y a Gabriel qui apparaît aux enfants. Alors il est magnifique. Donc les enfants l'ont décrit, puis il y a un artiste qui l'a représenté. Donc c'est un ange avec des cheveux blonds, une espèce de beau gosse, la bodybuildé, avec des belles ailes, etc. C'est magnifique. Mais c'est Raphaël qui s'est donné à voir de cette manière-là pour que les enfants le reconnaissent. Mais ça ne veut pas dire que Raphaël il a des ailes dans le dos. Hein. Mais il peut apparaître de cette manière-là. Saint Thomas dit que l'ange peut prendre n'importe quelle apparence. Il dit même d'être inanimé. C'est-à-dire que, bon, c'est pas le cas. Hein. Si c'était nécessaire à sa mission, un ange pourrait apparaître sous la forme d'une bouteille d'eau. Alors, il y a peu de raisons que ça arrive. Hein. Mais l'ange peut prendre n'importe quelle apparence. Il a cette capacité à prendre n'importe quelle apparence. Du coup, ça nous fait penser aussi que le démon est capable de faire ça. Bon, ça c'est pas extrêmement important. Ce qui est important, c'est de comprendre que les représentations qu'on a conservées, notamment les ailes, en fait, bah, c'est pour signifier quelque chose de leur rapidité à servir Dieu, à servir le projet de Dieu. C'est voilà, leur vélocité, c'est ça que cela évoque. Mais effectivement, Saint Michel, dans la plupart de ses apparitions au cours de l'histoire de l'Église, Saint Michel apparaît avec des ailes, pas toutes, mais Saint Michel apparaît souvent avec des ailes. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a des ailes de pigeon dans le dos. Voilà. Parce qu'encore une fois, un ange n'a pas de corps. N'ayant pas de corps, il peut apparaître sous une apparence, mais n'ayant pas de corps, il n'a pas une apparence.
Puisque vous êtes justement au Mont Saint-Michel, on entend dire que Saint-Michel est l'ange gardien de la France.
Oui, c'est une erreur historique. Oui, mais qu'on peut expliquer très simplement. En fait, Saint Michel a été choisi, nommé d'une certaine façon, choisi par Louis XI. Il y a Charles VII aussi qui a mis son nez là-dedans, mais je crois que c'est surtout Louis XI qui a mis le royaume de France sous la protection spéciale de Saint Michel. C'est pas une décision de Dieu qui dit à Saint Michel « Occupe-toi de la France ». C'est nous, enfin, la société qui se met elle-même sous la protection de Saint-Michel. Vous voyez, c'est pour ça que quand on dit ange gardien, il y a un problème théologique. Parce que l'ange gardien, c'est pas vous qui choisissez votre ange gardien. Vous n'avez pas eu au moment de votre naissance une apparition où Dieu vous a mis 10 anges gardiens devant vous en disant lequel tu prends. Voilà. Donc l'ange gardien, il vous est donné par Dieu. Donc la France a un ange gardien. On appelle ça en théologie une principauté. Donc la France a un ange gardien. Dans les apparitions de Fatima, il y a un ange qui apparaît qui dit « Je suis l'ange du Portugal ». C'est une principauté. Donc la France a la nation française,
mais aussi le diocèse de Laval, mais aussi votre famille, mais aussi votre association, à un ange spécialement dédié au service de la communauté humaine que vous représentez. Et cet ange-là, on l'appelle une principauté. Donc la France a un ange gardien, une principauté, qui lui a été choisie par Dieu. La France s'est mise sous la protection de Saint-Michel, et Saint-Michel a été jusqu'au vœu de Louis XIII. Vous vous souvenez, Louis XIII qui a consacré la France à Marie dans le mystère de l'Immaculée Conception. C'est pour ça que, pendant longtemps, depuis Louis XIII jusqu'à la Révolution, la fête nationale, c'était le 15 août. Et que la France est officiellement toujours sous la protection de Notre-Dame de l'Assomption, puisqu'il n'a jamais, jamais été remplacée. Il n'y a pas un président qui a dit, bon, désormais, parce que ça serait possible. Hein. Donc, Saint-Michel a un intérêt particulier pour la France, mais il faut pas être égoïste, et on ne peut pas garder Saint-Michel pour nous. Hein. Donc, il n'est pas l'ange gardien préféré de la France, mais par contre, le fait que la France soit mise, et soit encore, parce que du coup, il est devenu patron secondaire, il s'est fait dégrader par Marie, je ne pense pas qu'il soit fâché, hein, mais il est resté patron secondaire de la France avec Jeanne d'Arc et Thérèse de Lisieux. Donc, Saint-Michel, nous le prions et nous nous mettons particulièrement sous sa protection, mais ça ne veut pas dire qu'il a un intérêt particulier pour nous. Voilà. Vous voyez la différence entre l'ange gardien qui est donné par Dieu et le patron, d'une certaine façon, que nous, nous choisissons. Voilà.
Est-ce que dans nos prières, quand on s'adresse à un autre ange gardien, mm-hmm. est-ce qu'on peut lui demander d'intervenir après les autres anges gardiens,
oui.
les personnes qu'on aime?
Oui. Oui, tout à fait. Alors la question, c'est est-ce qu'on peut demander à notre ange gardien d'intervenir auprès d'autres anges gardiens? C'est ce que faisait Saint Jean XXIII. Saint Jean XXIII, c'est grand pape. Saint Jean XXIII, il y a deux choses fascinantes au sujet des anges dans la vie de Saint Jean XXIII. La première, c'est que il attribue à son ange gardien la suggestion de convoquer le concile. Et qui dit, il laisse entendre que c'est cette idée-là ne lui a pas été inspirée directement par l'Esprit Saint, même si l'Esprit Saint a dû avoir son rôle à jouer, mais elle lui a été suggérée par son ange et qu'il a dû engager son autorité de pape. C'est sympa d'ailleurs de la part de Dieu d'avoir procédé comme ça. Parce qu'en fait, il faut vraiment que ce soit une décision du pape, la convocation d'un concile. Ça ne peut pas être une espèce de truc qui s'impose du haut du ciel, là, paf, vas-y, t'as pas le choix, appelle les évêques, concile. Non, ça lui a été suggéré par son ange, d'après ce qu'il dit, et donc il a mis tout le poids de son autorité, donc de sa volonté et de sa liberté, dans le choix de convoquer le concile Vatican II. Donc ça, c'est très intéressant. Et Jean XXIII, qui avait une grande amitié avec son ange gardien, disait que pour un certain nombre de sujets, eh bien, il ressentait le besoin, il le faisait quand il avait une réunion difficile avec quelqu'un, avant la réunion, il disait à son ange gardien, bon, si tu pouvais aller t'arranger avec l'ange gardien du gars que je dois rencontrer avant qu'on se rencontre, ce serait pas mal. Parce qu'a priori, si vous arrivez à vous entendre là-haut, peut-être que ce sera plus facile de nous entendre ici. Voilà. Donc on peut le faire. Vous pouvez solliciter l'ange gardien d'une personne ou demander... En fait, bien sûr, avant même que vous le disiez, il l'aura fait. Parce qu'il sait, encore une fois, comme il ne nous obéit pas, mais il sait très bien ce qu'il doit faire. Donc s'il y a besoin d'intervenir, il le fera même si vous ne le demandez pas. Par contre, vous, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi c'est intéressant de le demander, de dire « Tiens, bah, j'aimerais bien que tu ailles voir l'ange gardien de machin, parce que je sens que la prochaine rencontre va être difficile et qu'on va s'engueuler. » Eh bien, ça vous permet de mettre cette conversation à venir sous le regard de Dieu. C'est ça l'intérêt. C'est de vivre cette rencontre par avance, de vous y préparer en vous mettant sous le regard de Dieu, en vous disant ben, « Voilà, Dieu a son rôle à jouer, peut intervenir dans cette conversation difficile et faire qu'elle se passe bien. » C'est ça le grand intérêt. Le grand intérêt de la communion avec les anges, c'est que ça nous permet de vivre déjà en présence de l'invisible, en fait. De vivre déjà dans cette communion avec l'invisible. C'est ça l'intérêt. C'est pas mécanique. Le but, vous n'allez pas gagner plus d'argent parce que vous priez votre ange gardien. Voilà. Vous n'allez pas être en meilleure santé parce que vous priez votre ange gardien. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Par contre, peut-être que ça va nous aider à vivre une vie plus authentiquement spirituelle, à vivre une vie plus remplie de Dieu, parce qu'on a un petit peu, vous savez, quand on passe de la deuxième dimension à la troisième dimension. Vous regardez une photo, c'est beau. Mais vous voyez le paysage, c'est quand même mieux. Voilà, quand on vit dans une communion avec les saints, avec les anges, avec Dieu, etc., eh bien, on passe de la deux dimensions à la trois dimensions. Et que les événements prennent une valeur plus grande. Ils prennent une valeur plus profonde. Voilà, c'est ça le grand intérêt de la communion avec les anges.
Mais l'ange gardien, c'est pas systématiquement par rapport au prénom qu'on nous a donné.
Non. Non, l'ange gardien, il vous a été décerné de toute éternité, enfin, depuis la création, depuis sa création. C'est pas en fonction de votre nom, c'est pas en fonction de... Non, non, en tout cas, dans les Écritures et dans la tradition, on voit rien de tout ça. C'est Dieu qui nous l'a attribué, et il a donné à notre ange toutes les qualités nécessaires à sa mission. Et ça, c'est très chouette de penser que Dieu, il y a des milliards d'années, à créer un ange parfaitement adapté à moi. C'est fou, hein ? Alors comme ça, si un jour, ça ne vous arrive pas, j'espère, mais si un jour vous doutez de l'amour de Dieu et que l'idée du fait que Jésus ait sacrifié sa vie sur la croix ne suffit pas, vous pouvez rajouter cette idée-là pour vous rassurer sur le fait que Dieu vous aime. C'est qu'il a créé, il y a très longtemps, un être plus intelligent, plus sain, plus puissant, plus fort, plus... Alors, j'ose pas dire plus beau, parce qu'il n'a pas de corps, donc l'ange n'est pas beau en soi. Mais un être qui est infiniment plus grand que nous, en vue de servir notre projet, enfin, le projet que Dieu a sur nous. Ça, c'est fascinant. Parce que dans la logique du monde, et dans la logique du monde matériel, l'inférieur sert le supérieur. Dans la logique de Dieu, l'ange sert un projet dans lequel lui devient inférieur à nous. Parce que lorsque nous serons ressuscités avec notre corps de gloire, notre condition, je vous l'avais dit tout à l'heure, notre condition sera supérieure à celle des anges. Pourquoi ? Parce que Jésus, Dieu a rejoint l'humanité en Jésus, Dieu s'est fait homme et il ne s'est pas fait ange. Ce qui fait qu'au ciel, alors, il ne faut pas réfléchir aux choses comme ça, c'est une image. Nous serons sur des trônes de gloire et les anges seront sur des strapontins. Parce que Jésus, étant monté avec son corps, son âme, sa divinité, son humanité au ciel, l'humanité est intégrée à la Trinité. Hein ? C'est pas, Jésus ne laisse pas son humanité au vestibule, dans le vestiaire du ciel. L'humanité a intégré la Trinité, et donc nous, comme notre destinée, c'est de la communion avec le Christ, la communion totale avec le Christ, c'est ça, nous serons tout en lui, tout en tous, il sera tout en tous, pardon, donc nous serons en lui et il sera en nous, et bien du coup, nous aurons une intimité avec Dieu, avec la Trinité Sainte, plus grande que celle des anges. Et c'est ça qui est incroyable dans la mission des anges, c'est qu'ils servent une mission dans laquelle nous leur devenons supérieurs, alors que par nature, nous sommes inférieurs aux anges. Par nature, c'est-à-dire par nos capacités naturelles, nous sommes inférieurs aux anges. Par la volonté surnaturelle de Dieu, nous devenons supérieurs aux anges. C'est fou, hein ?
L'ange gardien peut-il être un trône, un chérubin ?
Non. Notre ange gardien, c'est ni un trône, ni un séraphin, ni un chérubin. Notre ange gardien, il appartient à la dernière catégorie des êtres célestes, qu'on appelle habituellement les anges. Le problème, c'est que dans le langage français, mais dans plein de langues, on a fini par donner le nom d'ange à tous les êtres célestes. C'est-à-dire qu'on dit le chérubin, c'est un ange, le séraphin, c'est un ange. Alors qu'en fait, on devrait dire plutôt, il y a des êtres célestes, invisibles, créatures spirituelles, personnelles, incorporelles, etc. Il y a des êtres célestes. Les orthodoxes, par exemple, ils n'utilisent pas le mot d'ange pour décrire tous les êtres célestes, ils disent les incorporels. Donc, dans les incorporels, il y a des anges, ce sont les anges gardiens. Bon, on s'est bien baladé, non ? Sur le continent des anges. Mais merci beaucoup pour votre écoute, en tout cas, et puis bravo pour votre assemblée. Et le groupe que vous formez.
Je vous remercie chaleureusement. qui est parmi nous, voilà.
Avec joie.
Voilà, vraiment. Et qui nous a...
Merci, Père.
Avec joie.
J'ai révisé la théologie et même j'ai appris des choses.
Ah bah tant mieux. Merci infiniment. J'ai encore une fois très heureux d'avoir pu vous rencontrer et partager ce moment
vraiment,
avec vous.
Je pense que au-delà de ce qu'on avait même ce qu'on pensait, voilà.
Vous avez tenu longtemps. Hein.
Ah oui, mais vous êtes passionnant. Je partage,
Je vous souhaite une bonne fin de journée.
Merci.
Et moi, je retourne sur mon caillou. À bientôt.
Merci. Merci.